Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoumoudani.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Albert Albon.
Bonjour.
Daniel Morin.
Et alors
Tanguy Passureau sera là tout à l'heure. Et nos invités sont Emmanuel Seigné et Melville Poupeau. Avec soyez les bienvenus. Bonjour Emmanuel.
Ah oui.
Ok, non, donc vous avez décidé de vous marrer entre vous et de ne pas nous écouter.
On a l'habitude.
Non, je, moi.
Je disais non, simplement bonjour Emmanuel, bonjour Melville, merci bonjour. De venir à ce micro. Nous avons évidemment évoqué cette série événementielle et à plus d'un titre sur TF1 ce soir, Insoupçonnable. Mais d'abord, on va voir à quel point, puisqu'il y a un petit jeu comme ça dans la bande, savoir s'ils vous connaissent bien ou pas, Emmanuel Melville. Vous ne répondez pas, ce ne sont que nos amis autour de la table. De la bande qui répondent. Concernant.
Oui, ami,
oui. Parce que je n'osais pas dire autre chose. À propos d'Emmanuel Seigné, il s'est passé un événement au jardin du Luxembourg qui a changé sa vie. Quel événement ?
S'est fait agresser.
Non.
Elle a fait un footing.
Elle est tombée dans le bassin. Quelqu'un.
Non.
Elle a rencontré son amour.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Elle s'est fait repérer.
Exactement, ouais. Marina. Repérer. À 14 ans, vous étiez quand même une enfant. 14 ans, c'est une enfant.
Bon, une heure, en tout cas.
Ça dépend desquelles.
Ouais,
vous n'étiez, vous vous considérez pas une enfant à 14 ans, vous ?
Non.
Vous étiez très mûre.
Non, mais j'étais pas une enfant.
Une adolescente.
Alors, expliquez-moi, une adolescente. Expliquez-moi la nuance. Ouais.
Bah, c'est pas pareil. Enfant,
non, mais vous étiez indépendante, vous viviez seule, sans
non,
vos parents.
Non, je vivais pas seule, mais j'étais, j'étais, je sais plus en quelle classe, en troisième.
Ouais. Au CP, en 14 ans.
En CP.
Moi, oui. Hein. Je sais pas les autres.
J'étais un peu en retard. Mais voilà, bref, donc j'ai commencé à être mannequin à 14 ans, oui.
Et alors comment, pardon, et comment se promener dans un jardin et c'est un homme ou une femme le photographe ?
Un homme, un photographe homme... qui m'a repéré et qui m'a fait faire une campagne pour Nina Ricci.
Non mais j'entends, mais avant d'arriver à l'affichage et la campagne Nina Ricci, il y a un homme dans un...
Quoi, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si j'ai couché avec lui ?
Pas du tout.
Non mais voilà, si vous n'avez pas eu la trouille que ce soit un pervers.
Mais c'est
pas
à,
du tout.
À la base, quoi, un homme...
Tout le monde n'a pas votre regard, Nelly.
Un homme arrête une jeune fille de 14 ans en disant bonjour, je suis photographe, faisons des essais. Voilà, il peut y avoir une paranoïa, une crainte. Une maman qui dit non, non,
vous
n'y va
pas. Je suis plus toute jeune, donc à l'époque, il n'y avait pas de crainte.
Ça serait le cas aujourd'hui si...
Aujourd'hui, c'est différent. Ouais. Les mœurs, la mentalité a un peu changé. Aujourd'hui, c'est différent. Mais en 82.
Non, enfin, moi j'ai eu l'élégance de ne pas donner l'année, vous voyez, c'est ça la nuit.
On était plus libre.
D'accord. Non, mais parce que c'est vrai que quand on entend les Harvey Weinstein, les affaires, les MeToo et compagnie, on se dit, oula, harcèlement.
Non, mais aucun harcèlement, je vous rassure. Il y a toujours eu des prédateurs.
Aucun harcèlement de mon côté.
Ça va, c'est essentiel. Quelle grande actrice a été la babysitter de Melville ?
Catherine Deneuve.
Non.
J'ai pourtant beaucoup de conviction.
Ouais, on y a cru.
Lauren Bacall.
Ouais. Vraiment babysitter, elle vous gardait.
Quelquefois, mais.
Jeanne Moreau.
Isabelle Huppert.
Non.
C'est quelle génération ?
La génération pour être babysitter.
Mimi Mathy.
Elle peut pas avoir peur.
Mimi Mathy, vous pouviez jouer au même jeu.
Melville est né en 73, donc du coup, il nous faut quelqu'un qui.
Sophie Marceau, non.
Non, mais c'est. On se rapproche, ouais. Grande actrice.
Grande.
Immense. Immense.
Fanny Ardant.
Star même. C'est même plus.
Le chocolat, c'est qui
Le chocolat.
Juliette Binoche.
Non.
Sarah Bernard.
Non. Grande actrice. Qui se fait rare que l'on.
Isabelle Adjani.
Exactement.
Oh, pour un cadeau.
C'était pour rendre service à ma mère qui était copine avec elle.
Mais ne minimisons pas ce moment quand même.
Quelle chance.
Ouais, en tout cas, je les ai impressionnés. J'avais l'impression d'avoir Blanche-Neige à la maison. C'était vraiment.
Est-ce que...
On va se coucher vraiment quand il y a Isabelle Adjani.
Non.
Est-ce qu'on n'a pas envie de traîner un peu dans le canapé ?
Elle nous gardait, moi et mon frère aîné, qui lui avait l'âge de fantasmer totalement sur Isabelle Adjani.
Quelle phrase ? Alors je vais vous donner le début de la phrase qu'Harrison Ford a dite à Emmanuel. Et à vous de compléter cette phrase. Quelle vérité ? Donc c'est une vérité sur le métier de comédien. Il a dit « Tu es payé pour... »
Plaire.
Attendre. Non,
exactement.
Ah oui, bravo.
Tu es payé pour attendre. Mmh. C'est violent, ça, comme phrase, non ?
Non, c'est parce qu'en fait, j'étais assez jeune et j'étais un peu...
Là, vous aviez une vingtaine d'années quand vous avez tourné avec lui. Ouais.
Voilà, un peu gâtée, enfin un peu sûrement. Et je me plaignais parce que je trouvais qu'il me mettait trop de temps et que ça m'énervait d'attendre. Et il m'a
entre deux prises ?
Oui, voilà. Non, entre les scènes. Vous savez, parfois, ça prend du temps. entre toutes les scènes.
D'accord.
De remettre en place la lumière.
De... Ouais, non, mais de changer. Enfin bref, ça, on attend beaucoup au cinéma.
Okay.
Et donc moi, ça m'agaçait et il m'avait dit ça pour me remettre à ma place. Et il avait raison, voilà.
De toute façon, c'est Harrison Ford, il pouvait vous dire n'importe quoi.
C'est vrai.
Harrison Ford qui parle après
en stage. C'est vrai.
Écoute-moi, pas en chocolat. Ok.
Non, chocolatine. Non, pas en chocolat.
Okay, chocolat, d'accord. Ça peut être accepté, chocolatine.
Quelle grande auteur a cuisiné des spaghettis pour Melville.
Quelle ça n'arrête plus.
Ouais.
Marguerite Yourcenar.
Pas loin.
Marguerite Duras.
Exactement.
Bon, non, mais c'est trop la classe,
Melville. Elle a dit Marguerite. Elle a dit Marguerite.
C'est Emmanuel qui a mis le point.
Quoi?
Non, on va quand même le donner à Marina.
Non, 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 non.
Ah, c'est toi?
Non, allez. J'ai lancé Marguerite. Mais...
T'as lancé Marguerite. Ah, oui, Marguerite Duras vous fait des spaghettis. Isabelle Eljani vous garde.
Ça va, Jomito.
C'est un accident.
Jomito.
Jomito. Non, c'est pas ma faute. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui travaillait dans le cinéma et qui était l'attachée de presse de Marguerite Duras pour les films qu'elle réalisait à l'époque. Donc elle la voyait souvent. Et sauf qu'un jour j'étais là, chez elle. Elle nous a fait des pâtes excellentes. Et je m'en rappelle. Et voilà.
Ne minimisez pas.
Non, mais.
Des pâtes au vin rouge.
Ceci dit, c'est vrai que c'est des souvenirs géniaux. Hein.
Évidemment.
Pour la classe Melville.
Ouais.
Évidemment. Et vous gardez, à part le souvenir de ce quotidien sympathique, faire des pâtes et manger ensemble, on retient quand même des discussions, le ton d'une voix, l'ambiance.
Surtout l'ambiance chez Marguerite, il y avait toujours, et notamment à l'occasion de ses tournages, une ambiance de fête, assez rock'n'roll, parce qu'il y avait Bruno Nuitel, le chef opérateur, qui par ailleurs s'est marié par la suite avec Isabelle Adjani, qui était toujours en blouson de cuir, de Pardieu très jeune, qui passait, qui ressemblait à un loup-bar. Enfin, il y avait cette ambiance surtout de fête. Et à l'époque, les tournages de Marguerite Duras, c'était plutôt une fête qu'un côté très avec la pression qu'on peut connaître aujourd'hui sur les tournages, quelque chose de sérieux. Là, à l'époque, c'était vraiment pour se faire plaisir qu'ils faisaient des films.
On s'ennuie davantage aujourd'hui sur les tournages.
On s'ennuie pas, non. On peut même s'éclater. En l'occurrence, on s'éclatait sur Insoupçonnable. Il n'y avait pas eu un moment d'attente.
Et nous, on s'ennuyait pas là.
Passionnant.
On n'avait pas le temps d'attendre.
Mais disons qu'il y a un côté un peu sérieux, puis une pression quand on arrive au moment du tournage. Des fois, on a l'impression que les gens sont déjà fatigués d'avoir autant préparé et attendu de pouvoir tourner.
Est-ce qu'on est conscient de cette chance-là au moment où on la vit, ou c'est avec le recul?
Non, parce que j'avais aucune idée de qui était ni Marguerite à l'époque, ni Isabelle Adjani, mais c'est plus au travers de ma mère et de son excitation à elle de savoir qu'elle allait passer le week-end avec Marguerite à la campagne, tout ça. Donc c'est plutôt ma mère qui m'a transmis ce goût pour les gens un peu différents, que ce soit Marguerite ou... d'autres gens qu'elle a fréquentés à l'époque, qui sont peut-être moins connus, mais
parce qu'elle de travailler avec ces artistes, elle les admirait, ou au contraire, elle les rendait plus humains en se disant, elle ne voyait plus le côté star, mais le côté
non, c'était plutôt de temps en temps, genre un coup de coude, genre regarde lui, un jour tu comprendras qui c'est, mais regarde comment il se tient, regarde comment il est habillé, c'était plus des, elle me donnait des indices pour le futur.
Quoi. Regarde comment il boit.
ça j'en ai vu plusieurs. Ouais.
Pourquoi Emmanuelle Seigné était-elle morte de rire quand elle a passé les essais avec Gérard Lanvin?
Parce qu'il s'est mis tout nu.
Il était nu?
Non.
Ouais.
Ça l'a fait. Non.
Ça l'a fait pas.
Elle est pas moquée. Non, elle va pas se moquer d'un détail physique. Enfin, ceci, c'est. Si, c'est un détail physique.
Il bégayait.
C'est un détail physique, non.
Il était habillé n'importe comment.
Il était.
Il avait des trucs dans les dents.
Non.
Il avait.
Non, c'est un détail physique.
Parce qu'il faisait. Un détail physique.
Ouais, un détail physique.
Sur lui, donc.
Ouais, c'est par rapport au physique.
La braguette ouverte.
Non plus.
La braguette fermée.
Il la faisait penser. C'est capillaire.
C'est capillaire.
C'est pas capillaire.
Il y avait de l'acné.
Non.
Il y avait,
de la salade sur les dents.
Non.
Une crotte de nez qui sortait.
Non.
Il avait perdu un œil.
Non.
Une oreille arrachée.
C'est un détail physique de comparaison entre elle et lui.
La taille.
Exactement. Vous étiez mort de rire parce qu'il est plus petit que vous.
Non, c'est en fait, je pense qu'il doit être à peu près comme moi, peut-être un tout petit peu plus petit.
Mais vous aviez
et il lui avait mis une petite. Moi, c'était mes premiers essais. Il lui avait mis une petite boîte pour qu'il soit plus grand.
Comme une
et
estrade.
Et moi, j'avais
quoi.
17 ans. C'était les essais pour Marche à l'ombre. Et d'ailleurs, ils m'ont pas pris, quoi.
Parce que vous étiez trop grande.
Non, parce que je faisais n'importe quoi. Je rigolais tout le temps. J'étais pas sérieuse.
Ben ça, on le fait pour beaucoup. Regarder Nagui dans une chaise haute.
Quel livre Melville Poupeau lit-il souvent?
La Bible.
Oui.
C'est vrai?
Comme nous tous.
Alléluia.
Amen.
Ah mais alors là, donc déjà, on respecte votre choix, mais c'est...
Bah, c'est gentil, Nagui.
Non, je suis pas le seul, heureusement.
Non mais régulièrement, on veut dire quoi? Tous les jours?
Régulièrement, non, c'est pas ça, c'est que... J'ai l'habitude de me trimballer avec mon petit bouquin qui peut aussi me servir de coussin. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose plutôt de l'ordre du fétiche.
Et de la croyance, quand même.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez pas uniquement le dire. C'est pas que l'objet.
Ça me passionne. C'est une histoire qui me passionne, même.
D'accord. Quand vous voyez. J'entends, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus que ça. L'histoire me passionne.
On va revenir aux pâtes avec Marguerite Duras.
Ben, ça l'est. On peut lire la Bible sans être croyant. On peut aussi lire la Bible parce qu'on est passionné par les histoires et on essaie de comprendre. Et après, on peut aussi comprendre beaucoup d'autres choses dans notre culture, dans l'art, grâce à ce livre.
Et de lire les autres religions, de s'intéresser aux...
Je suis des cours.
Le bouddhisme, le judaïsme, l'islam. Savoir ce qui est le moteur finalement de ceux qui sont croyants.
Bah, surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont liées aussi à ce genre de lecture et de connaissances. Voilà. C'est mieux, plus on connaît, plus on comprend.
Vous suivez des cours, ça veut dire quoi vous...
C'est compliqué, je suis pas sûr que ce soit vraiment le lieu pour en parler, mais oui, j'ai un ami...
Mais non, mais ça peut ouvrir des horizons à certaines personnes.
J'ai un ami rabbin que je vois souvent, qui m'explique beaucoup de choses.
D'accord. Pour quelle raison Emmanuelle Seigné peut-elle refuser de tourner un film ?
Des scènes de nus ?
Les enfants, voir vos enfants.
Des scènes habillées ?
Non. La durée du tournage ? Le catering ?
Le cachet ?
Non. Des costards trop petites ?
Ça n'a pas un rapport avec le...
La réalité.
Scène de nu ou de fringues, c'est un rapport avec
le climat, le tournage en lui-même. Il ne faut pas que ce soit en extérieur.
C'est pas loin.
Pas en intérieur, entre les deux. Pas dans un garage, pas dans une cave.
Il faut un climatiseur.
Il faut pas
Elle veut un ventilateur.
Changer de fuseau horaire.
Non, mais
ça.
Pas loin de la maison.
Il faut un chauffeur.
Il ne faut pas qu'il pleuve.
Il faut qu'elle puisse rentrer à la maison.
Il faut que ce soit walking distance.
Le week-end, il ne faut pas qu'elle soit trop loin, pas plus de 300 km.
Ce qui est important, c'est quand on lui. Ah, je suis pas loin d'accepter quand même la réponse de Leïla.
Oui, dis oui.
C'est le lieu de tournage. Vous pouvez refuser de tourner en fonction du lieu de tournage. Il ne faut pas que ce soit trop loin. Vous pouvez rentrer à la maison.
C'est pas ça. C'est qu'il y a des pays que je préfère un peu éviter. Quoi.
D'accord. Genre.
À fortir le point.
Exemple. Exemple.
Bah,
pays.
Je sais pas. Je préfère tourner, disons, en Italie ou en Espagne qu'en Bulgarie ou en Hongrie.
Vous n'êtes non. Moi, j'avais lu.
Il faut dire que ces gens ont des physiques disgracieux. J'aime
bien quand on mange, enfin que la nourriture est bonne.
Voilà. Mais j'ai dit le quatrième aussi.
La qualité de vie est très importante.
C'est
pour
ça.
Moi.
Et de ne pas tourner l'été. L'été, ce sont les vacances, c'est famille. Vous ne voulez pas tourner l'été.
Je préfère pas. Mais maintenant, mes enfants sont grands, donc c'est différent.
Oui.
C'était quand ils étaient petits.
D'accord. Ça n'a vexé personne quand vous disiez ce genre de... Quand vous donniez ce genre d'exigence ?
Non, mais bien sûr que
si demain
c'est
avec
Scorsese
un tel
qui me demande pour jouer dans un film...
En août à Sofia.
En août à Sofia, j'y vais, quoi.
Août en Hongrie, voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà.
Ok, d'accord. Il y a quand même ce petit élément supplémentaire.
C'est sympa pour les autres réalisateurs, d'ailleurs, à qui vous allez refuser Sofiane en août. Moi, je dis ça, mais...
Melville Poupeau a refusé, a failli pardon, perdre quelque chose au début de sa carrière.
Ses cheveux ?
Non.
Sa virginité ?
Non.
Sa voix ?
Son portefeuille.
Sa dignité.
Perdre son quelque chose, qu'est-ce qu'on perd ?
Sa jambe gauche.
Son pantalon.
Non, c'est pas perdre, c'est même carrément changer quelque chose.
De sexe ?
De nom.
Exactement, Marina. Oui, de nom.
Ah bon ?
Vous êtes posé la question avec votre maman de savoir s'il fallait ou pas changer de nom. De famille.
C'est vrai que quand j'ai commencé Melville Poupeau, les gens c'était pas si facile à retenir. Et le premier article que j'ai eu dans France Soir à l'époque, le grand titre c'était un nouveau venu, Melvin Poupard.
Non.
Et donc, ça commence pas bien.
Je me dis tiens peut-être qu'il faudrait que je pense à changer de nom.
En tout cas, c'est bien Melville Poupeau et Emmanuelle Seigné qui sont dans un casting fort aussi aux côtés de Kerkem.
Jean-Yves Anglade.
Il y a Patrick Chesnais également. Il y a différents guests en fonction des épisodes dans cette série, mais c'est vous qui l'a porté, l'adaptation de The Fall de la BBC. Ça devient insoupçonnable. Dès le début, on sait que vous êtes la policière, l'enquêtrice. Dès le début, on sait
la commandante.
Que...
Le commandant, pardon. Fichier.
Dès le début, on sait que vous êtes le tueur. Donc, de ce côté-là, le suspense n'est pas.
C'est comme dans Colombo.
Systématiquement, on connaît le coupable.
C'est comment il va être confondu. Ouais. Ouais.
Voilà.
Voilà. C'est ce qui vous a plu dans cette
manière
de raconter
l'histoire. C'est ce qui m'a plu, mais il y a plein d'autres choses qui m'ont plu. Mais c'est une très très bonne série, très bien écrite. Comme mon personnage. Que j'aime beaucoup.
De femme forte, mais qui reste femme aussi.
Oui, puis on découvre au fur et à mesure des épisodes sa blessure et pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle est obsédée par vouloir sauver les femmes et pourquoi elle veut
dominer.
C'est toute sa vie.
Ouais, pourquoi elle se comporte comme ça avec les hommes aussi.
Voilà, pourquoi elle est comme ça. Et,
oui,
et donc c'est un personnage très complexe et en 10 épisodes, on a le temps de le développer.
La diffusion étant deux par deux, hein, c'est ça.
Deux par deux. Il y en a deux qui passent.
C'est ça. Deux par deux pendant cinq semaines. Vous, le justement, il y a une espèce de dualité dans vos personnages, c'est-à-dire qu'il y a la face cachée et la face publique dans la société. On l'a compris pour la commandante. Vous, c'est un père de famille. C'est ce qui est encore plus inquiétant.
Idéal.
Extrêmement. Voilà. Ah ouais. C'est le bon père de famille, trop gentil, qui colorie avec ses petites filles, qui est adorable et qui est un odieux. Tueur en série pervers.
Ouais, comme qu'on peut avoir des hobbies.
Ouais, c'est ça.
Petit jardin secret.
Bien sûr.
C'est son petit jardin secret.
Complètement. Non, mais c'est pareil qu'Emmanuel. C'est vrai que le texte était génialement bien écrit.
Il y a un grand suspense. Ouais, moi, quand je lisais les épisodes, je pouvais plus m'arrêter.
Ouais. Il y a un côté très addictif, palpitant, et le personnage se développe. Et tous ces rôles qui s'est construit au début, à savoir le père de famille, le mari aimant, le psychologue et tout ça, il les abandonne au fur et à mesure pour vraiment se consacrer à sa véritable passion, qui est le serial killing. Voilà.
Sa véritable passion.
Le week-end.
On a l'impression que c'est ça.
Comme si non, mais il fait la pub.
Les maquettes.
Non, mais c'est aussi l'histoire d'une radicalisation dans un sens où c'est-à-dire que lui, au début, il fait ça, planqué, puis au bout d'un moment, sa passion le ronge et il sacrifie tout jusqu'à sa... Enfin, sa vie, sa famille et tout ça.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il est psy. C'est-à-dire qu'il est
censé.
Ça, c'est pas étonnant. Hein.
Il n'est pas quand même assez cultivé, il dessine. Ouais. Enfin, c'est des personnages aussi bien le commandant.
Enfin, il dessine ses perversions pendant que des couples viennent confier leurs problèmes de famille.
Donc, c'est des personnages extrêmement originaux.
Voilà,
tous les personnages, il y en a plein d'autres.
Absolument. Et quel que soit le degré d'ailleurs de présence de ces personnages, il y a toujours de la vanne aussi, il y a toujours du suspense. C'est extrêmement bien réalisé par Fred Garçon. Faut quand même le
préciser.
Christophe Lamotte. Ils sont deux.
Ils sont deux. D'accord. Ouais. J'avais retenu qu'il y en avait quand même, mais très bien.
Fred Garçon, il a fait les quatre premiers et Christophe Lamotte les six derniers.
Alors donc je n'ai pas vu les derniers de Christophe Lamotte, j'ai vu les premiers de Fred Garçon. Ah oui. Je suis très très franc.
Mais c'est normal, il faut les regarder en direct à la télé.
Mais non, mais on a eu le privilège de pouvoir accéder en tout cas aux premiers épisodes pour pouvoir en parler. Mais c'est ce que j'ai fait.
Ouais, c'est long.
Et puis en même temps,
on peut rien
dévoiler non plus, si ce n'est cette notion qui est peut-être propre à tous les serial killers de mise en scène qui relève presque
un fétichisme, absolument.
Ou de tableau. On parle de dessin justement.
C'est absolument. Les photos,
les sophistiqués.
Ils profitent de ce moment un peu privilégié.
Un mode opératoire très très précis.
Ouais. Bah c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on se rend compte que ces serial killers sont des gens souvent très intelligents, complètement fous, mais en même temps qui ont une vision
presque rationnelle du crime.
Ouais, c'est ça, et presque esthétique. Quoi. Lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Il se définit comme un artiste. À un moment, il le dit, mais moi, je suis un artiste. Et puis vous, ils se moquent un peu de Chloé parce qu'ils pensent qu'ils ont un lien entre les deux. Ils pensent que
Chloé
c'est un peu
le personnage joué par Emmanuel Seigné. Ce qui vous a plu dans ce personnage, dans votre personnage, c'est son féminisme.
C'est son féminisme, mais pas seulement. C'est un personnage très très complexe parce que elle est à la fois très dure comme ça à l'extérieur. Elle dirige des équipes et en même temps, elle est complètement brisée à l'intérieur. Et plus les épisodes avancent, plus on se rend compte de sa vulnérabilité.
Déjà, ça se passe à Lyon, et c'est la Parisienne.
Voilà, elle est très snob quand elle arrive.
Voilà, c'est ça.
Alors, dans la version anglaise, elle venait de Londres à Belfast. Et là, donc, c'est de Paris à Lyon. Et donc, elle se sent un peu supérieure par rapport aux gens de Lyon. Mmh. Et petit à petit, elle devient beaucoup plus humaine et beaucoup plus sympathique et beaucoup plus... vulnérable et plus intéressante.
Ouais, elle vanne même les autres flics.
Oui, mais à la fin, elle est beaucoup plus intéressante qu'au début. Quoi. Au début,
mais en même temps, Lyon, intellectuellement, est une ville sinistrée. Ça a été prouvé scientifiquement il y a deux ans.
Ouais. Non, mais je trouve en plus que vous renouvelez le genre dans votre incarnation de ce personnage de commandant parce que vous n'avez pas sur le terrain comme une femme complètement non plus déterminée. On sent qu'elle est un peu absente, elle observe.
Elle est bizarre un peu. Elle est presque
étrange.
Comme un personnage des films de David Lynch.
Ouais.
Elle est très très bizarre. Elle est...
Ça se voit dans votre regard, je trouve.
C'est un personnage étrange, quoi.
La façon dont vous êtes filmé dans cette série, je trouve qu'au départ, je me suis même demandé si c'était pas vous la tueuse dès le premier épisode.
En tout cas, c'est la plus dure.
La plus inquiétante, la plus mystérieuse.
Mais au naturel, vous avez un air inquiétant.
Vous aussi.
Vous en jouez.
C'est vrai qu'il y a. Et votre personnage à vous aussi, Melville Poupeau, il est très inquiétant parce qu'il est tellement suave et mielleux dans la vie de tous les jours qu'on se dit ça doit être vraiment. Mais un tordu, mais
ils sont tous insoupçonnables.
Ouais. Ils sont tous très très curieux. Ça marche très bien.
Ça
marche très bien.
Vous avez regardé la version originale?
Alors moi je l'ai regardé en fait un an avant qu'on me propose celle-là, parce que j'ai fait un film avec l'acteur Jamie Dornan, qui joue dans la série anglaise. Et donc, je voulais voir la
Comment
tête qu'il avait.
Ah,
il a une très belle tête, d'ailleurs. Et donc, je l'avais regardé à ce moment-là. Et j'avais adoré.
Et c'est ça. Et donc, c'était une bonne nouvelle qu'on vous contacte.
Ah oui, pour mais je n'ai jamais pensé imaginer qu'on me proposerait ce rôle.
Quel doute aviez-vous? Celui de la bonne adaptation? Il fallait après voir le texte français.
J'ai
savoir
vu tout
si...
de suite le texte français, donc j'ai D'accord. vu que c'était très bien adapté. Après, c'est sûr que, bien sûr, tout le monde fait des comparaisons. Gillian Anderson, elle est mieux. Bon, j'ai lu déjà ça et... C'est bon, c'est un peu normal, surtout qu'il y a des grands fans de cette série, mais ça n'a rien à voir, quoi. Moi, je suis française, ouais. Elle est très anglaise.
C'est vraiment une adaptation, c'est
complètement
pas du tout.
Différent.
Et je pense que la majorité de ceux qui vont regarder ce soir n'ont pas vu la version originale.
Oui, absolument,
aussi,
parce que c'était
pas...
sur la BBC, donc c'est. Mais il y a des grands fans de cette série,
oui,
mais
ils
sont peu.
Et comme tous les fans, ils sont par moments extrémistes.
C'est ça.
Ils vont loin. Je tiens à reciter quand même le casting, au-delà d'Emmanuel Seigné, Mavis Poulpeau, Claire Kem, Jean-Hugues Glad, Patrick Chenet, Blandine Bellavoir, Sophia Essaïdi, qui joue le rôle
de la médecin légiste,
voilà. La Fouine, Gérard Laroche et Emmanuel Bonamy, entre
et
autres.
Et Lucie Ryan aussi, qui joue les babysitters.
Très bien.
Ah oui, elle est très bien,
Et Jean-Roger Navarro.
Oui, je suis là.
Vous êtes sûr que cette série va fonctionner, Jean-Roger?
Bien sûr, Nagui, que je sais pourquoi qu'insoupçonnable, ça va avoir un succès qu'il est immense. C'est clair comme l'eau de mon anisette que depuis la série que mon oncle Navarro, il était le héros, même qu'elle portait carrément son nom, Navarro. Donc depuis, c'est la première fois qu'une série, elle est aussi impeccable. Vraiment, Madame Seigné, je vous tire ma chéchia. Parce qu'en voyant dans Insoupçonnable, en vous voyant, je me suis dit, ma parole d'honneur, la Seigné, c'est tout mon oncle. Alors pas physiquement, bien sûr, mais comme lui, intuitive, chevelu, bourru, animal. Et vous, monsieur Popo, un salopard complètement tordu, j'en avais jamais vu un pareil que Paul Brodsky. Jamais. Sauf dans le 7e épisode de la 15e saison de Navarro, l'Empailleur. C'était l'histoire d'un psychologue psychopathe ventriloque qui faisait parler des sourds-muets pour leur faire avouer que c'était eux qui assassinaient des transsexuels, alors qu'en fait, c'était lui, le psychologue psychopathe, qui les avait trucidés, les transsexuels, avant de les empailler.
Calmez-vous.
Bon, t'as suivi, Ramsès?
Oui.
Bon, parce qu'il faudrait que tu m'écoutes de temps en temps. Non, la mort de mes os, quel suspense. Bref, Insoupçonnable, ça va cartonner, je comprends pas pourquoi, qu'avant l'émission, vous avez dit, Inagi à GNB, notre rédacteur chef, Insoupçonnable, ça rime avec interminable. Comment veux-tu que je trouve le temps de visionner les 10 épisodes alors que je dois me faire en replay tous les matchs des Bleus en Russie? Mais, oh mon maître, soyez serein, j'ai résumé la série 10 épisodes en 3 minutes. Une fois de plus, vous allez pouvoir faire illusion avec brio en disant par exemple qu'on peut rien dévoiler. Voilà comment qu'elle
se... Pardon, mais c'est vrai en plus.
Oui, c'est vrai, mais vous l'avez dit. Voilà comment qu'elle se prépare la bande originale. Une dernière chose, Madame Seigné. Dans ses interrogatoires, malgré qu'elle soit une super criminologue, Chloé Fisher, dont on a parlé, que vous incarnez, elle y va beaucoup trop mollo avec les suspects. Alors, je vais vous apprendre la technique que tonton Roger, il avait recours à lui pour faire cracher leur merguez aux enfants de salopards et de putain, Jean Brodsky, qui se croyait insoupçonnable. Il m'a légué son bottin, je l'ai enveloppé, il y sait. Maintenant qu'on fait de la radio filmée, elle est où la caméra? Elle est là-bas. Bon, je le montre. Alors ça, c'est la tête du suspect. Ça, c'est le bottin de Babeloued. Et ça,
arrête,
c'est le bottin de Babeloued. Mon micro, il est coupé. C'est le bottin de Babeloued sur la tête du
il
suspect.
Il n'est pas coupé, c'est ton casque qui coupe. Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Emmanuel Seigné et Melville Poupeau. Melville, votre rôle est très physique. Déjà, votre physique est très à l'image. Mais
mon physique est très physique.
Oui, mais très à l'image.
Et le tueur entretient son physique.
Voilà.
Il a besoin.
Bah oui, c'est absolument. C'est-à-dire qu'il fallait absolument avoir l'air menaçant et inquiétant assez vite pour que qu'on puisse être crédible dans le rôle du psychopathe. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une discipline de fer puisqu'il se prépare à ses séances à l'avance. Et c'est quelqu'un de très rigoureux.
Pardon, je suis désolé. Vous parlez des séances. Ce sont les meurtres.
Oui, bien sûr, mais c'est des meurtres qui durent longtemps.
On a l'impression que c'est un spectacle pour vous.
Non, mais
quand il
le voit comme ça, parce qu'il pense que c'est.
Rassurez-moi, c'est un rôle de composition, parce que là, vous êtes très proche du personnage.
J'ai du mal à quitter le rôle de Paul Brodsky.
Il a du mal.
C'est très plaisant. C'est très plaisant, parce que ce qui est plaisant, c'est aussi de jouer un type qui ment et qui se cache derrière d'autres rôles lui-même. Donc on peut jouer aussi avec le spectateur, puisque le spectateur sait que vous êtes en train de mentir, vous pouvez vous permettre d'être provocant ou d'être absolument naïf. donc c'est vraiment un rôle à multiples facettes.
Le spectateur, quand on voit, on se dit, mais quel salaud, quelle duplicité. Ça, c'est un plaisir pour le spectateur.
Et c'est ça aussi de se dire ça, mais en même temps de se dire, ah, mais quand même, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, pourvu, et à la fin, j'espère qu'on se dit, même presque pourvu qu'il s'en sorte, on est presque avec lui.
Finalement, les scènes les plus insoutenables, c'est pas tant que vous tuez.
Pardon,
mais non. Non, mais le plus insoutenable, c'est quand vous êtes avec des enfants, quand vous êtes avec votre fille.
Ça, j'aime les enfants.
Moi, je trouve que c'est le pire avec sa petite fille.
Non, non, non. Mais ça, dans le personnage, vraiment, c'est quelqu'un qui se sent même peut-être plus proche des enfants que des adultes.
Et il y a des moments de trouble quand il est avec ses enfants.
Bien
c'est
sûr.
Bah, que c'est peut-être le moment où il pourrait se faire.
Et après, d'ailleurs, ça devient même très émouvant. Quoi. Enfin, il y a quelque chose par rapport aux enfants.
Il y a une ambiguïté permanente. Ouais. C'est ça aussi qui fait qu'on regarde, c'est qu'on se dit, mais jusqu'où il va aller.
Je ne sais plus si je peux en parler ou pas dans quel épisode c'est, mais.
Moi, j'en ai eu 4.
Non, je dirais pas quoi, mais votre fille vous surprend.
Oui, dans le troisième.
Vous surprend. Voilà, point. Vous surprend. Mais, mais c'est un enfant qui ne comprend pas peut-être ce qui se passe, mais, mais c'est particulièrement troublant.
Là,
c'était juste pour te prouver, Albert, j'avais vu plus que les deux premiers.
Ça fait peur.
Mais vraiment, je te crois, t'inquiète
mais,
pas.
Non, mais sincèrement, puisqu'on avait la possibilité de les voir, j'ai volontairement, je me suis arrêté parce que j'ai vraiment envie de voir la suite.
Ah bah oui,
et je me suis dit, si je sais trop,
tu vas tout dire.
Exactement.
Ça monte en puissance.
Même nous, depuis le début aussi, c'est difficile de pas expliquer plus que ce qu'il faut.
Moi, j'étais tellement excité par le projet, j'ai vu zéro épisode. Je garde tout pour le soir.
C'est ce soir.
C'est ce soir sur TF1 et c'est insoupçonnable. Voici l'humeur de Marina Rollman.
C'est elle.
Bah on l'adore. Ah,
oui, c'est
joli.
Ah, ça y est les amis, on est mi-septembre, c'est bientôt la fin de la saison des mariages et donc le début pour moi d'une longue période d'hibernation qui durera jusqu'au mois de mai où je pourrai à nouveau, là, chaque week-end, mettre mes plus belles robes pour offrir des saucières à des gens que je ne connais pas. Et ça me déprime, parce que moi je vis pour les mariages. En vrai, c'est les meilleures fêtes. Alors oui, il y a des sceptiques qui aiment ironiser sur certaines traditions. C'est vrai, c'est un peu risible que la mariée arrive en blanc sur du verdi pour montrer qu'elle est pure et virginale, alors que toi, c'est tes amis. Tu le sais comment ils se sont demandés en mariage, t'étais là, c'était à Burning Man. Une heure avant, ta pote, elle était en train de se faire chamaniser la schneck par un gourou néerlandais. Pendant ce temps, son futur mari, il chuchotait le nom de son animal totem à une tireuse à bière. Le matin même, tu leur tenais les cheveux pendant une cérémonie d'ayahuasca. Mais bon, comme t'es témoin, tu vois, tu dois raconter la version censurée pendant toute la soirée. T'es là, ah, vous connaissez Greg, il avait tout prévu, c'était magique. Et c'est vrai que le slideshow du papa de la mariée, on aurait pu voir une version condensée. C'est vrai qu'après une cérémonie et 4 heures d'open bar, t'es pas forcément en mesure d'apprécier la puissance du director's cut. Hein. Ce pauvre monsieur, il a jamais parlé en public de sa vie. Ça fait 65 ans qu'il retient ses émotions. En plus, il a 2-3 spritz dans le cornet. Donc ça donne un truc assez exhaustif, tu vois. Alors ça, c'est quand Camille faisait du poney. Ça, c'est quand Camille faisait du deltaplane. Ça, c'est quand Camille avait une frange. Ça, c'est quand Camille était rodée pour Iron Maiden. Ça, c'est quand Camille est tombée dans l'affaire Madoff. Ça, c'est quand Camille s'est recousu la horde dans un sous-marin. Oui, bon, bah, on a compris, monsieur Berti, elle se cherche un petit peu, Camille. Oui, d'accord. Et c'est vrai que de manière générale, les discours dans les mariages, c'est compliqué. La plupart du temps, c'est pas des gens dont c'est le métier de parler en public. Donc, c'est pas toujours très rythmé. Tu vois, toi, pour tenir, tu sautes sur n'importe qui a un nœud papillon. T'as là, un café, s'il vous plaît. Non, mais moi, il y a erreur. Moi, je suis juste le témoin de Mathieu. J'en ai rien à foutre. Tu déballes les cadeaux, tu trouves un magimix, tu fous des dragées dedans, tu me fais un café, putain. Alors, c'est vrai que ça, c'est des fois, mais où ailleurs qu'à un mariage, tu peux tomber sur Estelle, 34 ans, responsable marketing chez Caudalie, qui sue comme un goret dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur lilas, comme ça, une main sur les ovaires, une main en l'air, qui t'explique avec beaucoup d'aplomb et l'aide de 50 Cent qu'elle est proxénète. Mais l'ambiance des générations aussi. Où ailleurs qu'à un mariage, tu pourrais voir simultanément des gamines qui jouent au loup sur du Beyoncé, comme ça, à côté leurs parents qui se remémorent avec tendresse la fois où 15 ans plus tôt, l'un d'eux a accidentellement tué une prostituée à Touloum. Et un peu plus loin, une mamie qui dabe pour l'Instagram de son petit-fils. C'est super, il n'y a que des mariages que tu vois ça. Et puis aussi, c'est à des mariages que t'as des coups de foudre amicaux réels, tu vois. Parce qu'en boîte de nuit, en tout cas pour les filles, à chaque fois que tu parles à un inconnu, tu lances les dés, tu vois, c'est risqué. Tu sais pas sur qui tu peux tomber, un type qui est chelou, quelqu'un qui va essayer de te foutre du GHB dans ton verre, quelqu'un qui va commencer à te parler de crossfit, enfin il y a des dingues, tu vois, tu sais pas sur quoi. Alors qu'à un mariage, il y a un côté rassurant, c'est comme si t'étais déjà pote avec tous les invités, même ceux que tu connais pas. De toute façon, t'as pas le choix, vous êtes bloqués tous ensemble dans le Luberon. T'as regardé sur Google Maps, c'est 3 jours à pied si tu décides de te barrer toute seule, donc forcément t'es plus ouvert. Et donc tu te retrouves à raconter des secrets dans l'oreille de la cousine, du copain, du témoin de la mariée. Et vous vous dites tout sur vos vies, comme ça, vos peurs, vos rêves, en fumant des cigares devant le soleil levant. Et au moment de vous quitter à 7h du matin, vous vous rendez compte que vous étiez même pas dit vos prénoms. C'est hyper joli. Et donc pour ça, pour la chenille, pour la chialade quand ils se disent oui, parce que même si ça avait l'air d'être prévu, c'est toujours une bonne nouvelle, tu vois. Bref, pour ces quelques heures pendant lesquelles on suspend l'ironie et tous ensemble on a mal aux pieds. Vive les mariés et à l'année prochaine.
Merci Marina Rollman.
France Inter, Maggie, la bande originale.
Une criminologue, un tueur sont nos invités aujourd'hui pour parler d'insoupçonnable. Emmanuel Seigné, Melville Poupeau, on va se balader en musique dans vos vies, puisque la musique est très importante également dans vos vies. En 85, Emmanuel, vous écoutiez...
Je sens des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
Dao et Dani, vous écoutez cette chanson, vous avez...
C'était pas en 85, c'était en 2001.
Ah.
Ouais.
Que vous écoutiez ça?
Oui,
mais c'est sorti en...
C'est sorti en 2001.
D'accord. Mais alors, nous, c'est la date qu'on nous a donnée. On parlait de 85. On vous a demandé ce que vous écoutiez comme musique en 85.
Non, je donnais une autre pour 85.
Ah, vous écoutiez quoi?
Grace Jones.
Oh.
I've seen that face before.
Strange. Ouais. Libertango.
C'était dans Frantic.
Ah bah très bien. Allons-y alors. Grace Jones, c'était ça. On va remettre tout dans l'ordre. Hein.
C'est bordel.
On trouvait ça un peu.
Alors donc vous entendez Grace Jones, vous pensez, vous voyez quelles images, vous voyez où, à
bah
quel moment
fait,
dans votre vie.
En fait, j'ai beaucoup écouté cette chanson et quand on a fait le film donc oui, avec Harrison, il a mis dans le, c'est sur cette chanson que je dansais avec lui.
Avec Harrison Ford.
Avec Harrison Ford.
Et 85, c'est aussi la rencontre avec Jean-Luc Godard qui vous offre votre premier vrai rôle au cinéma.
Non, c'était pas vraiment un rôle.
C'était pas un rôle.
C'était un demi-rôle. Mon premier vrai rôle, c'était
Francis. Robert demi-rôle.
C'est un vrai demi-rôle. Dans Détective, ouais. Et la rencontre, elle est un peu compliquée avec Godard.
Bah, je sais pas, c'était pas trop mon truc en fait. Déjà, moi, je connaissais pas trop ses films, donc j'avais pas ce côté où ils étaient tous super admiratifs. Moi, c'était pas trop mon truc. Et puis. Je sais pas quoi. J'ai pas envie de dire du mal lui parce que
mes premiers jours de tournage,
c'est pas un scoop.
Voilà.
Il a pas la réputation d'un mec charmant et lumineux. Hein.
Voilà. Non mais j'aime pas dire du mal, mais bon voilà, c'était pas.
De toute façon, on l'aime pas ici, là, chez vous. Hein.
Non. Chez moi, je l'aime.
Non mais en tout cas, premier jour de tournage, vous deviez être seins nus.
Ouais. Après, je devais être toute nue. Je suis partie pendant une semaine. Je suis partie, il a arrêté son tournage. Quand je suis revenue, il m'a dit t'as gagné ta culotte.
Voilà, la grande classe.
Voilà. Mais je l'ai quand même.
Il fallait repartir une autre semaine pour gagner le soutif.
Et au casting, quand même, il faut préciser Jean-Pierre Léo, Nathalie Baye et Johnny Hallyday.
Voilà. Alain Cuny, il y avait beaucoup de gens. Ils étaient tous béats d'admiration devant lui, sauf moi.
Aucun jeu de mots sur Cuny, non, non.
C'est Daniel. Daniel a levé le sourcil, il m'a regardé.
Et pourquoi qu'est-ce qu'il y a avec
qui a fait une base sur De Niro, c'est pas. Ok.
Précisez, Nagui.
Demi-rôle.
On est dans cette même année avec, rassurez-moi, Shelby and the Devotion ou pas?
Shella.
And the Bee Devotion. Mais c'est le métier de
Shella. Shella
et Bee Devotion.
J'adore Shella, Melvin.
Moi, j'adore Shella.
C'est super, Shella.
Elle a un accent anglais
et... Non, c'est super.
Touchant, ouais.
En fait, j'ai fait un film de...
Quel salaud.
Un film de Raoul Ruiz à cette époque-là, dans lequel Shella jouait ma tante et elle tuait tout le monde avec une mitraillette. Il avait un peu de mal à maîtriser à l'époque, mais dans le film, ça le fait.
Et il y avait Jean-Pierre Léo, là aussi.
Il y avait aussi Jean-Pierre Léo.
Et c'est le troisième film que vous avez tourné avec Raoul Ruiz, qui vous a quand même placé dès le départ aussi dans votre filmographie, dans un univers quand même très particulier.
Ah oui, carrément, Bah, c'était quelqu'un que j'adorais, qui était très, très prolifique, très érudit, qui faisait des films aussi avec un esprit d'amusement, de fête. Les choses n'étaient pas sérieuses et en même temps très passionnantes, quoi, toujours un peu surréalistes.
En 2000, alors là vous écoutiez quoi, Emmanuel Seigné, en 2000?
En 2000-2000?
En 2000-2000.
Bah, j'écoutais Dany et Étienne Dao.
Ah bah voilà.
Je sens des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps.
Quelle
que
voix.
Je t'avais donné.
J'adore la voix de Dany.
On fait mettre la clope là.
J'adore la voix de Dany.
Et de Dao.
J'ai sur le bout de la langue ton prénom.
Et alors, si Insoupçonnable, c'est votre première série en 2000, c'est votre première fois au théâtre.
Ah oui?
Ouais. Dans Fernando Crap.
Ah, avec Nils Arestrup.
Ouais, absolument. Une mise en scène de Bernard Murat.
C'est 2000 déjà?
Au théâtre Montparnasse. Ouais. Alors, on vous a demandé souvent à ce moment-là pourquoi le théâtre si tardivement? Qu'est-ce qui a
fait que. Je pense que comme je venais d'une famille de théâtre, j'avais un petit rejet, en fait. Et je me rappelle, le metteur en scène, au départ, je voulais pas le faire. Et il m'a dit, mais viens voir au théâtre comment tu te sens sur la scène. Et dès que j'étais sur la scène, je sais pas, je me suis sentie bien. Et du coup, voilà, théâtre.
Et c'est un beau souvenir ou...
Très beau, ouais. Très beau.
Et l'envie de retourner au théâtre ?
Oh, j'ai aussi, j'ai fait aussi le retour.
Non, mais je parle de... là, dans les années qui viennent.
Ah là,
viennent,
oui, j'aimerais bien, oui. Ouais.
En 2017, Melville Poupeau, vous écoutiez les Talking Heads. Psycho
Killer. Qu'est-ce que c'est ?
Incroyable, d'une inventivité dingue, David Byrne en étant...
qui vient de sortir un nouveau disque excellent aussi. Bon, ça, c'était en rapport à la série aussi. C'est-à-dire que quand on est resté quand même un an à Lyon pour tourner Insoupçonnable, donc on s'est fait notre propre vie. Moi, j'étais un peu solitaire, donc j'ai écouté beaucoup de musique et celle-là me lançait pour mon
rôle. Pour le rôle Psycho Killer, oui, ça m'a donné l'ambiance.
Quand vous dites un peu solitaire, c'est-à-dire vous...
Moi, j'aime bien quand je travaille, rester concentré. Là, c'était sur une très longue période.
Donc,
j'aime bien...
vous ne mangez pas avec vos camarades comédiens.
En plus, là, j'étais à un régime assez strict par rapport à mon
physique.
Besoin physique et tout ça. Donc, oui, c'est vrai que j'étais un peu dans mon coin, mais ça, c'était un moment pas désagréable.
C'est dur d'être au régime à Lyon.
Ouais, c'est sûr.
Et en 2017, vous êtes en Chine.
Oui.
Une aventure un peu incroyable. Racontez-nous, parce qu'il y a le tournage d'un film, il y a des écrits, il y a...
En fait, le tournage en Chine, c'était avant 2017, mais le film est sorti en 2017. Ouais. Film de Charles Demeaux qui s'appelle Le Portrait Interdit, avec la plus grande star chinoise qui a disparu depuis. Là,
Fan Bingbing.
Je sais pas si vous avez lu les journaux.
Ouais.
Mais qui était une actrice excellente, une femme très puissante en Chine. Et voilà, j'ai adoré ce film, c'est un film d'époque, qui se passait au XVIIIe siècle, je jouais le rôle d'un jésuite.
En quelle langue avez-vous tourné ?
En mandarin. Ça, c'était le côté difficile, ouais.
Bah ouais.
Ça, c'était vraiment impossible, je recommande à personne de faire cette expérience.
En combien de temps vous avez pu apprendre le mandarin ? Ou vous l'avez appris phonétiquement ?
Bah, je l'ai appris phonétiquement. Avant, j'ai quand même beaucoup travaillé avec un coach, pendant le tournage, c'était phonétique, et après, je me suis doublé moi-même, et là, c'était vraiment une torture. En plus, le réalisateur exigeait que ce soit vraiment ma voix, donc j'ai épuisé trois coachs différents, et c'est impossible, c'est vraiment une expérience douloureuse.
Et vous avez raconté ça dans un livre ?
Absolument, j'ai écrit un bouquin sur le tournage qui parle plus qu'un hommage à mon ami Charles Demeaux,
ouais.
Sur le tournage duquel était mort aussi Kill Bill, tu sais, l'acteur, ouais. David Carradine, ouais. Qu'on a retrouvé pendu par les couilles à ce moment-là. Donc voilà, c'est un ami qui aime toujours avoir des aventures et des tournages un peu particuliers. J'admire ça.
C'est Voyage
en fait,
à Fin City.
Vous m'inquiétez de plus en plus. C'est que
ça, mais je lis la Bible.
Il est très inquiétant.
C'est ça qui m'inquiète.
Il dit
non,
ça hyper compense. Calmement, entre deux phrases. Comme ça.
C'est pour ça qu'il est bon pour le rôle.
Non, il tourne dans des films où les acteurs s'accrochent parce qu'ils peuvent. De l'autre côté, vous tournez le rôle d'un tueur en série. Vous vous servez de la Bible comme oreiller.
Moi, je trouve que ce rôle de psychopathe, ça vous a apaisé. Vous a l'air totalement sûr. Je conseille à tout le monde, du coup, de tuer quelqu'un s'il ne fait pas de cinéma. Ça a l'air d'être bon.
Ah, je profite du cinéma et de toutes les expériences qui vous permettent de vivre.
Mais alors, justement, le cinéma, et pour en revenir à Insoupçonnable, le cinéma vous oblige à être coaché, à apprendre, à monter à cheval, à faire de l'escrime, enfin, en fonction des rôles que l'on vous demande. Évidemment, toutes les actrices, tous les acteurs sont des menteurs devant des directeurs de casting, de réalisateurs. Oui, je sais faire du cheval. Oui, je sais plonger en apnée à 300 mètres de profondeur, mais après, il faut le faire. Et donc là, dans Insoupçonnable, est-ce qu'il a fallu que vous vous documentiez sur le travail de criminologue ? On a bien compris que Melville avait...
Il avait de l'avance.
Non, physiquement, avait éprouvé aussi son corps et son rythme de vie pour devenir ce qu'il est dans le film.
Non, moi, j'ai appris à tirer.
D'accord.
Parce
que ça, mais ça aussi,
ça, c'est pas bien, Melville.
J'ai rien dit.
C'est pas bien.
Personne n'a rien dit.
C'est bien. Léa, t'es complètement
tordu. C'est Melville qui m'a regardé. Il a souri, m'a regardé.
Ce n'est jamais la faute de l'invité, par définition.
Du coin de l'œil.
Mais c'est pas vrai, ça. Nagui, agis, fais quelque chose, fais-toi respecter.
Si, c'est drôle.
Parce que, non, mais pourquoi c'était important ? Parce qu'on sait bien qu'au cinéma, c'est des faux revolvers.
Moi, il fallait que j'apprenne à tirer parce qu'il y a plusieurs moments où je tire, où j'ai un flingue, donc j'avais quelqu'un qui m'apprenait.
D'accord. Il y avait, il fallait apprendre quoi? Le recul, le...
Non, comment on tient le flingue.
D'une manière professionnelle, d'une manière...
Oui, voilà, et puis que ça soit crédible, quoi.
D'accord. Le coaching, physiquement, vous parliez tout à l'heure de la contrainte du régime. Vous avez suivi quoi? Une diète particulière?
Alors ça nous intéresse. Côté catering, là, on veut savoir le
point de vue. Il faut le dire, vous avez quand même un corps sublime.
Il a fait beaucoup de sport.
Il a un très beau corps.
Il a un beau corps, ouais.
Je dis tout le temps que le plus important sur un tournage, c'est le catering. Parce que pour moi, c'est l'endroit où les gens se retrouvent.
C'est vrai que les équipes de tournage sont très sensibles à ce qu'on leur donne à manger.
Bah oui. Mais vous, non. Donc,
Moi, si, mais moi, j'avais un autre régime parce qu'en fait, j'ai commencé 4 mois avant le début du tournage une préparation avec un coach sportif pour les acteurs qui s'appelle Fred Mompo, qui est culturiste et qui est un type formidable. Et c'était un plaisir finalement, mais mon corps s'est transformé. Il m'a donné un régime surprotéiné. Et j'allais 4 fois par semaine dans sa salle de muscu, donc j'ai gonflé quand même.
Que de la viande, que des œufs, que des
voilà.
Protéines.
Des protéines, des légumes, des fruits, tout ça, mais je veux dire assez strict. Et puis quelques crèmes par-ci par-là pour pour enlever toute la graisse.
Oui, mais c'est des crèmes de jour, crèmes de nuit. C'est pas... et des pompes, des abdos, quoi. Parce que vous avez des tablettes. Il fallait être gaulé, quoi. Il fallait être tanké.
Le personnage, il est sportif. Et puis, il a beaucoup de scènes où il est torse nu, et beaucoup de scènes où il est...
Totalement nu.
Avec ses victimes, un peu totalement nu aussi, exactement.
Ça vous a pas gêné?
Mais non, pas du tout. Disons qu'il y a des fois, ça peut me gêner.
Parce qu'on a l'impression que dans les films ou les séries, il y a toujours une scène où la comédienne est nue, elle prend sa douche, on se demande...
Déjà, ça m'amusait que ce soit le garçon qui soit plus...
C'est le cas, là.
Puis elle est victime aussi,
torse nu, elle est victime aussi, c'est vrai. Et puis non, une fois qu'on est dans le rôle et que ça, pour moi, ça participait aussi de ces moments où il se prépare, où il rentre dans un autre personnage, où il prend vraiment il rentre dans la peau du tueur. Donc il se fait une petite cérémonie tout seul pour son kiff, quoi. Et donc après, il part.
Il est totalement. Il a été chopé par le rôle.
Il
m'inquiète.
Il est inquiétant.
Super peur. Sécurité.
En plus, c'est que des brunes. Marina, fais gaffe.
Romain Nigita, vous êtes journaliste spécialiste de séries télé, le grand pote d'Alain Carazé pour Series Anatomy chez Fantasque Édition. The Fall, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel Seigné, qu'il avait vu avant qu'on lui propose de faire la version française. Succès mondial, succès branché,
d'estime. Alors, succès mondial, mais en effet, pour un public de passionnés, ça a quand même duré 3 saisons.
Ouais.
Ça a quand même eu suffisamment de succès pour faire 3 saisons. Il y a eu 17 épisodes, et c'est vrai que c'est la grande différence finalement avec la version française, c'est que la version française, c'est uniquement 10 épisodes.
En fait, c'est les deux premières saisons qui sont concentrées en 10 épisodes.
D'accord.
Et ce qui fait que le rythme est un peu plus soutenu, c'est vrai, dans la version française.
Donc ça veut dire qu'il y aura une suite, puisque si vous dites qu'il y a eu 3 saisons et
non,
que...
Parce qu'ils ont concentré.
Non, mais il y a une saison qu'ils n'ont pas faite.
Voilà.
Ah.
Est-ce que les adaptations françaises des séries qui ont du succès à l'étranger, c'est immédiatement une réussite ou...
Alors,
en général, c'est pourri. Hein.
Bah, y a eu très récemment, il y a eu les Bracelets Rouges.
C'est pas le cas. Ouais,
voilà. Bracelets Rouges, qui est l'adaptation d'une série espagnole.
Ouais,
ça a très bien marché en Espagne, ça a très bien marché en France. Il y a eu une version américaine produite par Spielberg qui, par contre, n'a pas marché.
Catastrophe.
Donc, comme quoi, ça marche pas à chaque fois.
Vive la France.
C'est surfait, Spielberg. Spielberg.
En tout cas, dans ce cas-là. Et il faut se souvenir qu'au milieu des années 80, en France, on a adapté une série américaine, on ne savait peut-être pas, Maggie. C'était l'adaptation d'une sitcom américaine des années 70 qui s'appelait Maud.
Ouais, mais enfin, c'était pas une série, c'était une sitcom.
C'était un feuilleton.
Une sitcom, c'est une série. C'est une série humoristique.
Ouais.
Il y a eu, par exemple, l'adaptation sur TF1 également d'une série italienne, ça s'appelait RIS, mais qui était déjà un peu un plagiat des experts, quand même. Faut être très honnête.
Donc, l'adaptation n'est pas synonyme de succès facile, immédiat. C'est pas signé d'avance, quoi.
Non, c'est pas signé d'avance parce que, déjà, ça dépend comment c'est programmé. Ça peut être face à une série très forte dans le pays dans lequel c'est adapté, donc tout simplement, les gens vont pas le voir. Il faut adapter à la culture aussi du pays.
Au code de la police, au code de la justice.
Ouais, insoupçonnable, le producteur Jean-Benoît Gilig nous a dit qu'ils avaient essayé de l'adapter aux États-Unis et qu'ils avaient abandonné l'idée parce qu'ils n'arrivaient pas justement à faire communiquer à rendre crédible l'histoire au sein de...
Mais en tout cas, les créateurs de la série, les Anglais, ils ont vu Insoupçonnable et ils adorent. Ils sont très très heureux avec.
Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la manière dont c'est adapté jouer, filmer, la musique, le rythme, le montage, ça c'est une chose qui relève presque de l'esthétisme et de la qualité du jeu. Après, il y a le côté sociétal. Est-ce que c'est crédible que tel membre de la justice fasse tel truc avec un policier qui va à tel endroit? C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des lois qui ne sont pas les mêmes en Angleterre, en France, aux États-Unis, donc qui ne peuvent pas être adaptées de la même façon.
Bah déjà, si on se penche vraiment à chaque fois sur la version originale, c'est pas toujours déjà forcément crédible dans une version anglaise, dans la version américaine, si on demande aux, aux flics locaux. Mais c'est vrai que c'est un peu plus simple de, d'adapter une enquête policière. C'est beaucoup plus compliqué quand c'est la partie judiciaire, la partie du procès.
Oui, parce que les lois ne sont pas les mêmes.
Exactement, c'est pour ça, exemple, quand TF1 avait adapté l'une des séries New York quelque chose, vous savez, New York District, New York Unité Spéciale, New York Section Criminelle, ils avaient fait une adaptation française avec Vincent Pérez, et ils avaient choisi la série New York Section Criminelle, parce que c'est la celle dans laquelle il y a beaucoup moins la partie procès. Alors que dans New York District, à chaque fois, c'est séparé moitié-moitié, police et procès. Et là, c'était compliqué d'adapter la partie procès.
Et alors, pourquoi, et ben, je suis ravi que vous l'ayez fait, soupçonnable, mais pourquoi les producteurs n'ont pas simplement doublé les voix? Parce que ça, il y a plein de feuilletons, il y a plein de feuilletons anglais ou américains qui passent tel quel, en doublé
ou
en VO.
Mais là, il faut dire que la série anglaise est beaucoup moins grand public parce qu'elle est beaucoup plus lente. C'était sur la BBC, qui est l'équivalent de Arte. Donc là, ils ont fait une série, le même ADN, mais qui est beaucoup plus grand public.
De toute façon, elle existe déjà en version doublée. Elle est passée en France sur 13e rue et sur NRJ 12.
Ah, je sais pas, d'accord.
C'est sur NRJ 12, donc chaîne publique gratuite. Et elle existe en DVD, en Blu-ray.
Elle est très, très lente.
Des BBC, il y en a plusieurs. La BBC One, c'est comme TF1.
C'est BBC Two. C'est comme Arte.
C'est vrai que le rythme est un poil plus lent. L'atmosphère est encore plus glaciale que la version de TF1.
Un cheveu.
Ça va vraiment foutre le jeton.
Donc, c'est vrai qu'en France, elle a su conquérir un public d'aficionados, notamment les fans d'X-Files, parce que c'était Gillian Anderson qui tenait le rôle principal, celle qui jouait Scully dans les années 90 dans X-Files.
Tout à l'heure, Emmanuel Séné disait que les auteurs ou les producteurs anglais
adorent
Insoupçonnable. Est-ce que justement, ils ont un droit de regard sur les séries, sur les adaptations?
Là, ils avaient,
ça varie, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est les scénaristes qui adaptent, qui font eux-mêmes la démarche de contacter les scénaristes originaux. C'était le cas, par exemple, pour France 4, une shortcom qui s'appelle Like Moi. Le scénariste français, François Usan, a contacté les scénaristes québécois pour avoir un peu leur sceau d'approbation.
D'accord. Il y a dans les tiroirs des séries qui arrivent, qui sont, ou des adaptations en tout cas, qui vont arriver?
Dans les prochaines séries, est-ce qu'il y a des adaptations qui arrivent? Bah en fait, on attend depuis un petit moment que les Américains fassent enfin les séries françaises dont ils ont acheté les droits. Ils ont acheté pas mal de droits ces dernières années.
Donc l'inverse, des séries françaises adaptées à l'étranger.
C'est ça. Il y a eu Les Revenants qui s'est planté. Ça s'appelait The Return. Il y a eu qu'une seule saison.
Ah ouais. Mais c'est vrai que les Américains c'est vachement bien Les Revenants.
À la version de Canal est vraiment très bien, mais la version américaine n'a pas du tout pris. C'est vrai que les Américains ont acheté d'autres concepts français. Ils ont acheté Les Hommes de l'Ombre, la série de France 2. Ils ont acheté Fais pas ci, fais pas ça. Ils ont acheté 10%. Également. Ah. Donc on attend de voir est-ce que ça va se faire ou pas du tout. C'est vrai qu'ils achètent souvent beaucoup de choses sans les faire.
D'accord. Est-ce que, alors là, sans parler d'adaptation, les séries qu'il faut voir en ce moment?
Les séries qu'il faut
voir. Est-ce que vous êtes très série, Emmanuel Séné, sur Netflix, Amazon et compagnie?
Vous regardez quoi en ce moment? En ce moment, je regarde Love.
C'est quoi?
Ouais, c'est super.
Jared Potter. Ouais. Avec
Gillian. Non mais pitcher un tout petit
elle
peu.
Elle est bien l'actrice d'ailleurs.
C'est une histoire d'amour, c'est des trentenaires un peu foutus qui tombent amoureux et c'est pas parfait et c'est bien.
C'est bien. Ouais.
Tu vas pleurer toi si tu continues.
Non, c'est super, quelle est la série? J'adore cette série, elle est très bien.
On va faire un mariage, on va organiser un truc, t'inquiète pas.
Melville, vous regardez des séries?
Non, pas trop, non.
Ou que des faits divers?
Je lis la Bible.
J'ai eu la version télé de la Bible.
Une bonne fresque de plus sur plusieurs épisodes.
Alors qu'est-ce qu'il faut voir en ce moment?
Alors moi, j'irai en ce moment à partir du 14 septembre, ça va être sur la plateforme vidéo d'Amazon.
C'est aujourd'hui, hein. Non, c'est demain.
Le 14, ouais. C'est une comédie assez noire qui s'appelle Forever. Et c'est en fait un couple dont les deux meurent à un an d'écart. Et les deux se retrouvent dans l'au-delà. Et sauf qu'en fait, ils s'étaient un peu fâchés avant de mourir. Et donc, ils vont se retrouver coincés dans l'au-delà. Ils vont s'embêter pour l'éternité. Donc,
c'est drôle ça comme pitch.
C'est très très drôle. C'est que deux acteurs qui étaient avant dans le Saturday Night Live. Donc si on aime
c'est une
ce
série qui est faite pour être drôle ou pour être.
C'est un humour assez noir, mais c'est de l'humour quand même. Et ils vont s'embêter pour l'éternité ensemble. C'est toujours manger drôle. Le même plat tous les jours, vivre dans la même maison, aller tous les jours en vacances au même endroit.
Et une valeur
mariage,
sûre,
quoi.
Parce que comme les séries, ça sort tellement vite et qu'on les loupe tout le temps, une petite valeur sûre qui est sortie il y a quelques temps qu'on peut quand même rattraper.
Bah, Columbo, on en parlait tout à l'heure. Oui, là,
c'est le 50e anniversaire cette année de Columbo. Les premiers épisodes, ils sont encore à revoir.
Spielberg, comme tu dis, a réalisé le premier épisode pilote.
L'épisode pilote. Casa de Papel, qui a été un succès, un carton. en tout cas pour les abonnés Netflix. Et
il va y avoir une suite.
Il paraît, mais ouais. J'ai lu un papier comme quoi le scénariste disait que c'était très très difficile d'écrire la suite.
Parce que c'était pas prévu pour qu'il y ait une suite, c'était écrit comme une mini-série, donc avec un début, un milieu, une fin.
Mais sans dévoiler la fin, c'est vrai que le pour ceux qui n'ont pas encore vu Casa de Papel, on encourage à ce que vous regardiez cette série.
Ça finit bien.
La fin, c'est vraiment non, mais la fin, c'est que c'est vraiment une fin.
La fin, bah, c'est comme la fin d'un film, et c'est comme si on faisait le 2. Voilà, c'est un peu ça. Donc faut repartir à zéro, faut trouver une autre idée. Mais c'est vrai que le succès
d'après Netflix, c'est tellement énorme. Ou pas
on ne sait pas parce qu'ils l'ont pas encore tourné, mais a priori d'accord. Ils vont le jouer à l'international. C'est-à-dire que la première saison, c'était vraiment fait pour la télé espagnole au départ. Ça se passe en Espagne, c'est purement espagnol, si je puis dire. Et là, ils vont essayer d'élargir.
C'est ça qui était bien aussi. Enfin, moi, je regarde toujours en VO les séries. C'est bien d'être plongé dans l'univers et la langue du pays dans lequel. Mais parce que là,
l'Espagne, c'est un peu le tiers-monde quand même.
Ils se sont gens posé la question d'une adaptation pour les Américains.
D'accord.
Et plutôt que de faire cette adaptation, ils vont faire justement une suite qui pourrait se dérouler en partie aux États-Unis.
Le seul truc qui est drôle. Dans la, je sais pas si vous avez essayé de le faire, d'écouter la version anglaise de Casa de Papel, les comédiens qui parlaient en anglais le faisaient, mais avec un accent espagnol. Oui. Donc ils gardaient quand même l'origine.
Mais les États-Unis, c'est l'un des seuls pays où ça n'a pas marché sur Netflix. Ça a cartonné en Europe.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'ils sont assez déçus du manque de succès aux États-Unis.
Il y a les comédiens qui sont devenus stars, que ce soit Berlin, Rio et autres de Casa de Papel, qui sont pris dans d'autres séries aussi. C'est-à-dire que ça lance des carrières, ce genre de...
Voilà, il y en a un qu'on va retrouver dans une nouvelle série de Netflix qui s'appelle Elite. Le créateur de Casa de Papel, Alex Pigna, fait de nouvelles séries avec les mêmes acteurs, mais qui n'ont rien à voir, c'est pas des suites.
C'est le filon, quoi.
Ouais, c'est vraiment. De toute façon, il y a beaucoup de très bonnes séries espagnoles qu'on peut trouver sur Netflix. Moi, j'en recommande une qui s'appelle Paquita Salas. C'est un peu le 10% espagnol. C'est un agent d'acteur qui est totalement nul. Et on suit un peu sa carrière et le fait que sa boîte casse la figure.
Et enfin, pour les Français, 10% continue évidemment.
On va peut-être faire la pub pour les autres séries.
Série française. Moi, je vous conseille en ce moment une série qui s'appelle. Bah, c'est pas du tout la nouvelle saison. Ça fait 8 ans que ça existe. Ça s'appelle Vestiaire. Une série courte sur France 2, qui reste formidable. On n'en parle pas assez.
Avec Brigitte Macron en guest.
Dans un épisode. Bah, mais bon,
Clémentine nous en parle régulièrement.
On en a parlé ici.
Qui met en avant des acteurs handicapés qu'on voit. Dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de les voir parce qu'ils sont dans les vestiaires, donc ils sont quasiment nus, ils sont torse nus, donc on est face à leur handicap et c'est également écrit par des acteurs qui sont même handicapés.
Mais Emmanuel Cédier, vous avez l'air d'être surprise, elle était prof de théâtre, Brigitte Macron, avant d'être
Elle était prof de lettres, elle a donné des cours de théâtre.
Voilà, avec option théâtre.
Et donc, ça me paraît bizarre qu'elle joue dans une série. Quand
elle joue dans la série.
C'est une apparition pour un épisode.
Oui. C'est un guest et juste pour aller au bout de la vanne.
Je crois qu'elle sérieux,
elle est habillée. Elle est habillée exactement comme elle était au moment de l'investiture d'Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment le clin d'œil autour de.
D'accord.
Rien de choquant, rassurez-vous. Nous allons reparler d'insoupçonnable.
Oui.
On va reparler d'insoupçonnable.
Arrêtez de parler des autres.
De la musique, du montage et de la manière dont c'est joué. Parce que lorsque vous le jouiez, vous n'avez pas forcément le découpage en tête. Parce que là où... Si vous l'aviez
le découpage, même, oui. Le découpage des victimes, il l'avait en tête.
Non, je ne les découpe pas, je les étrangle.
En fait, ce qui est dur, c'est que par exemple, on travaille d'abord sur les 4 premiers épisodes. Donc on peut faire à 8h une scène de l'épisode 1, à 9h une scène de l'épisode 3, donc il faut tout avoir bien dans la tête.
Y compris la psychologie du personnage au
tous
moment
les trucs,
où... C'est-à-dire que quand ça évolue...
C'est ça la difficulté.
D'accord.
Quand je vois votre vernis sur vos mains, je pense forcément à une scène de la
Attends.
Série.
Attends, non, je sais plus quel... On peut le dire
ça. On peut dire quelques trucs.
Bah oui, on peut dire que vous mettez très bien le vernis.
Il aime le féminin.
Il savait appliquer le vernis.
Il faut pas divulguer.
C'est très bien le mettre d'ailleurs.
Merci Romain Digital d'être venu. Merci mille fois. Mes amitiés Alain Carazé. Nous avons Tanguy Pastureau.
Il avait qu'à venir.
Tanguy Pastureau qui nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui, bonjour à tous.
Bonjour. Vous allez nous parler, je ne sais pas si c'est ça, de François Hollande et Julie Gayet.
Oui,
évidemment, ils sont dans Paris Match.
Voilà, ils sont beaux, ils sont glamour, ils inspirent l'érotisme le plus débridé, surtout. Elle. Et pour la première fois, ils posent ensemble dans la presse à Granville dans la Manche, leur nid d'amour où ils se caillent les miches dans des grosses polaires en regardant la pluie tomber et en croquant des Xanax.
Qu'est-ce qui vous fait rire, Emmanuel?
Je sais pas, il me fait rire.
Ah lui, oui.
Lui, il me fait rire.
Mais l'information fait rire aussi?
Oui.
C'est vrai aussi?
Oui.
D'accord.
Parce que je les imagine comme il dit, quoi.
À Granville, quoi.
Non, mais c'est vrai, mais tout ce qu'il dit est vrai.
Oui, mais c'est drôle comme il le dit.
Vous avez dû faire des papiers people tous les deux pour faire la promotion d'Insoupçonnable.
Moi, j'ai fait dans Paris Match, c'est pas dans celui-là, non? Celui de la semaine dernière.
D'accord. Et Melville ?
Non, non. Moi, j'ai fait une interview pour Fitness Magazine.
Ah, oui. Sérieux ?
Ouais.
Mais, bah, excusez-moi, mais vous étiez déjà sportif avant de faire le tournage ?
J'étais pas du tout sportif.
Vous aviez pas les tablettes de chocolat et compagnie ? Non,
ça c'est ce qui est plus long à venir. Ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
Et de l'avoir fait maintenant, vous vous dites, si je gardais ça pour un bon bout de temps.
C'est dur à garder parce que c'est quand même 900 abdos par jour que je faisais. Hein.
900 par jour ?
Mais non, c'est du boulot, hein.
Vous avez quand même des gènes incroyables.
Non, ben, je peux vous dire une chose, c'est que mon coach m'a dit, il n'y a pas de fatalité, on peut transformer son corps.
Si on est sérieux
et qu'on bosse vraiment, on peut se transformer.
Écoutez, j'en prends note.
Sans recours à la chirurgie. Ouais.
Pas de fatalité.
Dites-le à votre frère, il faut qu'il s'y mette.
Oh, ben, il est hyper gaulé. En plus, il fait de la muscu, parce que Johnny lui a dit, mon vieux, si tu montes sur scène, faut être
gaulé aussi.
On parle de ça.
Bonjour, soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadowo-Dadi, Marina Rollman, Tanguy Pasturo.
Bonjour.
Marina Rollman, redis bonjour si ton micro était fermé.
Ah pardon, bonjour.
Voilà, Tanguy Pasturo.
Bonjour.
Daniel Morin.
Si je veux.
Albert Algou qui est déjà sous la table. Et nos invités sont Emmanuel Seigné et Melville Poupon.
Bonjour.
Insoupçonnable, ça porte bien son nom, c'est à partir de ce soir. Qu'est-ce qui se passe ?
Il fait des trucs dégoûtants.
Insoupçonnable, donc c'est à partir de ce soir.
Pas comme ça de l'inviter, quand même.
C'est à partir de ce soir sur TF1. Deux épisodes tous les jeudis soirs, donc pendant 5 semaines. Chloé Fischer, interprétée par Emmanuel Seigné, une brillante criminologue parisienne, mais qui est envoyée à Lyon. Je dis le mais parce que, évidemment, les Lyonnais et pas tous ne voient pas ça forcément d'un très bon œil. On sent qu'il y a un passé ou un passif avec Jean-Hugues
Anglade.
Qui est celui qui vous demande de venir pour faire l'enquête.
Le préfet.
Au milieu de tout cela, il y a un psy, Paul Brobski, qui est le bon père de famille, marié avec Claire Kem, 2 enfants.
Corps de rêve.
Corps de surnom. Corps de Instagram.
Gentillesse incarnée.
Corps de tes rêves, écoute. avec
j'ai droit à la différence.
Il est ouvert d'esprit.
Voilà, exactement. Il est même bénévole, ou en tout cas, il se présente comme étant un psy bénévole qui va aider des patients dans la nuit.
Spécialisé dans les syndromes post-traumatiques.
Ce qui lui permet d'avoir des horaires un tout petit peu décalés, d'être souvent absent de la maison.
Comme beaucoup d'entre nous, il lui arrive de mentir à sa femme.
Excusez-moi, et parler pour vous.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un
de qui
normal.
Vous êtes gêné.
Mais non, mais je ne mens pas à ma femme.
Vous avez des choses à dire.
À vous, oui, je mens, mais jamais à ma femme. Donc, vous mentez à votre femme et vous allez tuer d'autres femmes. Voilà. Pour résumer, chose que je ne fais pas, excuse-moi, j'ai bien son truc.
Non, tu ne tues pas de femme.
Vous le présentez comme un esthète.
Bah, c'est comme ça qu'il se voit, lui, il se voit comme une espèce d'artiste qui a une autre conception de la vie, de la morale. Et il est, comme beaucoup de ces serial killers, il méprise un peu la société et les gens. Il se pense beaucoup plus intelligent, très narcissique. Donc lui, son idée, c'est qu'il a tout compris lui et qu'il arrive à faire des choses que les autres n'osent pas faire, mais qu'au fond, on est tous capables et qu'on est
L'assassinat.
Il provoque le commandant Fischer, joué par Emmanuel, il le provoque souvent en l'appelant, en lui disant t'as vu ce que j'ai fait, mais toi t'es pas capable. Mm-hmm.
Alors justement, la commandante, parce que j'aime bien féminiser, moi, la commandante que vous jouez a des fêlures et finalement elle en fait ça lui sert d'atout, quoi. C'est ça, son hypersensibilité.
C'est ça qui fait qu'elle a vécu quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle veut sauver ses femmes. Elle veut absolument les sauver et elle est prête à tout.
Et son hypersensibilité aussi va, dès le premier épisode, d'ailleurs, c'est elle qui voit qu'il y a un tueur en série. C'est elle qui voit que ce meurtre...
Ce que j'aime bien dans ce personnage aussi, c'est qu'elle a un côté un peu improbable, dans le sens un peu BD Super Jamie. Quoi. Ouais. Elle voit une mèche de cheveux coupée à 10 mètres. Elle peut voir un beau mec à 200 mètres. Elle a un peu des super pouvoirs et ça j'aimais bien.
C'est une leçon de drague, hein, votre personnage quand même. Ouais. C'est bonjour, je suis à l'hôtel et ma chambre est le numéro un tel. Bonsoir. Voilà.
Elle est très cash.
Pourquoi on parle autant, en fait? Pourquoi on perd du temps?
Tu sais que j'adorais ce personnage.
Tu sais que Leïla, on entend tout ce que tu dis.
Oui, mais je le dis dans ma tête.
Elle perd pas de temps.
Oui, c'est ça. Voilà. Au suivant.
Eh ben, nous perdons. Eh ben, le suivant, c'est Tanguy Pasturo. Tanguy, François Hollande ne nous a pas quittés, il est toujours là.
Et non, on n'arrive pas à s'en débarrasser de Fanfan. Exactement comme d'un ex un peu lourd qui pense qu'il a toujours sa chance alors qu'on a changé de serrure, de téléphone, qu'on a pris un Rottweiler à qui on a fait sentir son slip et qu'on s'est fait refaire le visage juste pour ne pas qu'il nous reconnaisse. Ingrid Chauvin, à mon avis, c'est juste que Hollande la collait. Hollande, il est à fond parce qu'un mec lui dit bonjour dans la rue, il a l'impression que c'est tout le pays qui veut son corps. En troisième, quand il a eu un vote en sa faveur à l'élection des délégués de classe, le sien, il s'est mis à hurler « purée, j'ai gagné », alors que Jean-Luc Sanchez, son concurrent, avait 34 voix. Il s'aime plus que nous, on l'aime. Il était donc fait pour être dictateur, mais malheureusement est né en France, ce pays permissif qui va jusqu'à autoriser les adultes à trottinette et les 10 de Christine and the Queens. Donc, il n'arrive à rien. Il est dans l'échec, tel le terroriste de Daesh armé d'un couteau, mais qui refuserait de le planter dans des gens parce qu'il est vegan. Il a donc foiré son mandat, mais lui est persuadé d'avoir cartonné. Tout ça parce que 4 pleupleux sans vie sociale, le genre de mecs qui ont vu les 215 épisodes de Rex Chien Flic dans l'ordre, ont attendu 12 minutes devant l'espace culturel Leclerc de Bourg-en-Bresse pour lui faire signer son pauvre bouquin. Là, en plus, il gagne 5 points dans le baromètre des personnalités Paris Match. Donc, il s'imagine être aussi aimé que Booba chez les parfumeurs. Hein, il est à deux doigts de sonner à l'Elysée et dire à Brigitte, jour madame, il est où le petit haut parce qu'il va falloir qu'il me rende les clés. C'est de son âge, c'est bêtise, mais enfin quand même. D'autant qu'il gagne des points uniquement parce qu'on ne le voit plus. Hein, on attendait que ça pour l'aimer. Hollande, 12 ans, caché sous un drap à se nourrir de ses peaux mortes, il est à 100% satisfait.
De ses peaux mortes.
Bref, il a plus la confiance que le père Fouras s'il devait faire deviner un mot de plus de 3 lettres à Josh Jonathan. C'est pourquoi Hollande a accepté de poser dans Paris Match pour la première fois avec Julie Gayet. Parce qu'il pense que ça nous intéresse. Il a passé 5 ans au sommet de l'État, mais il ne nous cerne toujours pas. Donc on voit Hollande et Julie dans la Manche, à Granville, et Match n'a jamais autant ressemblé au catalogue d'Axon. Hein, la boutique d'Amar à côté, c'est la mode été chez des Iguales. Hollande apparaît avec la chemise bleue de Marie Pervenche sous un gilet de Vred. Même Adamo à côté, on a l'impression qu'il s'habille chez Couple Sport. Alors, il a une fesse posée sur un muret et l'autre dans le vide, c'est son Koh-Lanta. Hein, tandis que Julie se colle à lui dans une posture de frotteuse de la ligne 13. Page suivante, Julie court sur la plage avec Philae, leur chien, qui, nous dit Match, doit vite quitter les lieux car les chiens y sont interdits. Mais enfin, relax, on est à Granville. Hein, au-dessus de 11 degrés, il déclenche le plan canicule. La plage, elle est vide. Vous y installez illégalement un Carrefour City plus son parking, ça gêne personne. Et le Royaume Poissonnerie, au moins, ce sera du frais.
Bon, Paris Match, apparemment, a suivi aussi François Hollande au mariage de son fils.
Oui, Thomas Hollande, qui a la même vie que le fils de Danny Boone, parce que son père fait rire les gens. Et qui s'est marié avec Émilie Broussoulou, une journaliste sportive. Ce qui est bien pour Hollande, parce que s'il veut revenir en 2022, va falloir ramer. Hein, pour lui, reconquérir l'Elysée, c'est aussi mal barré que de faire du tir à la corde quand on n'a pas de bras. Et là, au mariage, Hollande a retrouvé Ségolène Royal, la mère de Thomas. Donc on le voit avec Julie, puis avec Ségolène. En plus, il y a un article de Valérie Trierweiler qui bosse un Match. Donc on a l'impression que ce numéro, c'est un résumé de la vie sexuelle de Hollande. Et donc on le repose écœuré dans le kiosque à journaux en disant au vendeur, tant qu'à faire, je vais prendre Haute Vidéo, les filles sont moins sapées et il n'y a pas Hollande. Mais toute cette com' dans la presse, Nagui, Juju et Fanfan qui se roulent dans le sable comme des méduses fatiguées dans lesquelles les enfants joueurs enfoncent des bâtons. Eh ben, ce n'est pas un hasard. Hollande veut vraiment revenir. Alors qu'il est là, à la cool, en gilet de vieux, à attendre la fin de vie en bouffant des moules. Il est bien. Moi, depuis que j'ai 15 ans, je veux une vie comme ça. Eh ben non, il faut qu'il rumine. Nye, 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 Macron m'a pris mon job. Et alors, Macron, il est moins aimé qu'un vendeur de niqab sur une plage naturiste. Qui a envie de ça, hein? Mais le pire, c'est que Julie Gayet, qui s'est radicalisée, hein, le pousse à revenir. Elle doit se dire ras-le-bol de me faire cire pépère. S'il reprend la politique, il sera occupé parce que là, je suis à court de mots fléchés. D'après un sondage du Figaro, seuls 17% des Français souhaitent un retour de Hollande. Et lui dit à Match, 17%, c'est bien, c'est le score de Jospin en 2002. Jospin, le gars qui est allé s'enterrer à l'île de Ré où à part pédaler sur son vélo pendant 16 heures, il n'y a rien à foutre. Les hamsters dans leur roue ont la même existence pourrie que les gens à l'île de Ré. Donc se comparer à Jospin dans l'espoir d'une reconquête, c'est comme de monter sur un ring de boxe thaï en criant à l'autre, je vais de la faire à la Pierre Ninet, hein, parce que le mec est moins lourd qu'une feuille à quatre. Hollande a cette phrase, je cite, on n'est jamais en retraite de la France. Mais enfin, vieux, la France, c'est pas un bocal à cornichons vides, il y a des gens dedans. Et si eux te disent, allez, ciao, c'était sympa, faut le prendre en compte. Moi, ce matin, la dame de l'accueil à Radio France m'a dit bonjour, c'est pas pour autant que je me présente à l'élection des représentants du personnel. Donc, au revoir, monsieur. monsieur. Au revoir.
Merci Tanguy Passion.
Yes.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Dans Insoupçonnable, ce qui est bien, c'est évidemment le.
Le reste aussi, hein, je rassure.
L'histoire.
Hein. Ce qui est bien, tout est bien.
Non, ce qui est bien, j'ai pas fini ma phrase.
Ah, pardon.
Ce qui est bien dans cette série, c'est évidemment son histoire, sa densité, la réalisation. J'insiste parce que vraiment, j'ai adoré les plans. Alors, je ne sais pas s'il y a une charte, une bible et ce qui va se passer dans les suivants. Mais en tout cas, cette caméra verticale qui passe d'une pièce à l'autre.
Il y a des clins d'œil à la mise en scène de la série originale. Oui.
C'est vachement bien. C'est vachement bien. Le rythme, le découpage, la manière dont c'est fait.
Mais c'est vrai que les deux metteurs en scène, Fred Garçon et Christophe Lamotte, se sont saisis du projet et ont eu l'impression, comme nous tous d'ailleurs, de faire un film et non pas un produit pour la télé ou même un prime time ou TF1. On a tous oublié ça et on s'est concentré pour faire un truc qui, à mon avis, rivalise avec pas mal de films de genre, en tout cas qu'on produit en France.
Et c'est une belle affiche de vous réunir tous les deux. C'est la première fois.
Oui.
Ah, puis les autres comédiens, pardon, aussi. Il y a un pur casting, quand même. Il y a un pur casting. Vous êtes insoupçonnables, l'un comme l'autre. On ne sait pas tout de la commissaire, de la commandante. On ne sait pas tout, évidemment, du tueur en série. Ce côté insoupçonnable fait que, aussi, quand on regarde cette série, on peut se demander, mais qui est son voisin? Qui est le père de famille adorable qui est à côté? Qui est cette femme?
Il y a d'ailleurs des faits divers. Il y a des faits divers avec ce genre d'histoire.
Non, c'est pas ça, c'est que chaque fois qu'il y a un fait divers, t'as toujours un témoignage de quelqu'un qui dit « Mais
il était gentil.
C'était le voisin. »
J'ai jamais douté.
Moi, j'ai connu Émile Louis, il était adorable.
Mais il le dit à un moment, Brodsky, il dit « On peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des autres, la vie serait insupportable si on le savait. »
Alors justement, Daniel, on voit bien avec le personnage joué par Melville Poupeau dans Insoupçonnable, il se peut qu'un tueur, un serial killer, sommeille en chacun de nous. Ça se trouve, peut-être même autour de cette table, il y a quelqu'un. C'est inquiétant, non, ces films.
Collabo, douanier, animateur télé, taisez-vous, j'en peux plus de vous entendre. Mais qu'on lui couse les lèvres, qu'on lui cloue le palais, qu'on lui colle les dents et qu'il la ferme, j'en peux plus, mes tympans suintent de dégoût. Lila, file-moi un couteau que je me tranche les oreilles, que je les donne à manger à un vieux du public. Ah, mais bordel de merde, c'est quoi jeter le trouble comme ça, monsieur Guy? Surtout que... S'il y a quelqu'un autour de cette table qui a le profil du maniaque, voire du psychopathe, je crois que j'ai quelques indices. Ah. Petite taille, fourbe, maîtrise approximative du français, haleine de migrant. Marina, dénonce-toi! Raconte-moi tes penchants pervers, tes passions de petite souillon helvète à l'hygiène négligée, tes envies de tuer des albinos, ton dernier rêve érotique avec un chien mort. Au nom de Dieu, ça m'excite. Je disais, arrêtez de jeter le trouble en parlant de meurtre comme un défaut. Alors, oui, je sais... Vous en connaissez un rayon, monsieur Guy. Vous êtes précis comme un fusil de sniper. Vous êtes affûté comme une lame de poignard. Vous êtes sournois comme une mine antipersonnelle. Mais excusez-moi, vous êtes con comme un lince-pierre sans élastique. Parce qu'en réalité, tuer des gens, commettre des meurtres de masse, des crimes à répétition, des actes de barbarie, être responsable de génocide, engendrer des charniers, c'est nécessaire. Car on sait bien sur Terre que, comme autour de cette table, on est bien trop nombreux, croyez-moi. Sauf moi. Une fois encore, monsieur Guy, je suis désolé. Mais vous avez dit...
N'importe quoi.
Exactement.
Merci. La bande originale avec Nagui.
Dans l'avenir immédiat...
On a une liste.
C'est une vraie liste. Hein, ça a été fait.
Les 10 métiers où l'on trouve le plus de psychopathes. Et en tête de file, directeur d'entreprise et PDG, donc on a pensé à toi.
et en troisième, les médias et l'audiovisuel.
Ouais.
C'est vrai?
Ouais. Et en deux, avocats quand même. Profession associée.
Parmi les serial killers, il y a des gens qui sont...
Les professions, il y a le
psychopathe. Ouais. Ah non, c'est pas serial killer.
Disons qu'un serial killer...
Non, psychopathe, on est tous à table. Ici.
Non mais toi plus, c'est marqué. Là, je suis désolé, Nagui. Voilà.
Bon, écoute,
c'est scientifique.
Je peux quand même rester un tout petit peu.
Oui.
Ce soir, Insoupçonnable, le premier épisode, tous les jeudis soirs.
Les deux premiers.
Et tous les jeudis soirs, deux épisodes pendant 5 semaines. On vous retrouvera au cinéma prochainement, Emmanuel, dans At Eternity's Gate.
Mm-hmm.
Racontez-nous un peu ce que...
Alors, c'est un
Van
film
Gogh.
Sur Van Gogh avec William Dafoe qui joue Van Gogh. Moi, j'ai un petit rôle. Il y a plein de caméos, enfin, différents acteurs qui font des...
Des apparitions rapides.
Voilà, il y a Matt Mikkelsen, il y a Oscar Isaac, il y a Mathieu Amalric.
Et vous, quel est votre personnage?
Moi, je joue Madame Ginou, qui est une femme très laide,
que peignait Capin, Van Gogh et Gauguin.
Mais comment vous faites
pour regarder sur comment... internet les tableaux. Enfin,
comment
je pense...
vous faites pour être.
Ouais, comment vous faites.
Ils m'ont bien.
En lady.
Ils m'ont bien dans lady.
En faisant quoi? Ils ont rajouté des verrues, des lunettes.
Ils m'ont mis une perruque brune, très très moche, et un costume très moche d'arlésienne. Et ils m'ont avec la lumière aussi.
Ils vous ont esquinté la peau. Ils ont fait.
Et ouais, ils m'ont vieilli un peu et avec la lumière. Enfin bon, bref.
En fait, vous refusez de poser nu, mais par contre de vous en les dire, oui.
Ouais, j'aime bien m'en les dire dans les films.
D'accord, très bien.
Sinon ça va.
Comment?
Sinon ça va.
Sinon ça va pour dans à quel point dans la vie?
Je sais pas, dans la vie.
Dans la vie, non, j'ai pas envie de m'en les dire, mais dans les films, je trouve ça intéressant.
On joue, ouais, c'est
on
ça.
Joue. On joue un personnage.
Melville, vous serez prochainement à l'affiche d'une Jeunesse Dorée d'Eva Ionesco. Qui elle a été mannequin et comédienne avant d'être réalisatrice.
Qui a une histoire compliquée dans avec son enfance maman. Avec sa mère. Elle a écrit un livre qui s'appelle Innocence, qui est sorti l'année dernière. Et là, c'est avec Isabelle Huppert. Et ça parle de son adolescence plutôt dans le Paris des années 70, au Palace, l'excentricité de l'époque.
Et c'est un film avec Isabelle Huppert.
Ouais.
Et dans lequel vous jouez quel personnage, vous?
Un dandy décadent, écrivain raté, alcoolique, ancien gigolo.
Il
travaillait ici, ce mec BD. Non, mais c'est vrai, il est là un jeudi sur deux. On l'embrasse d'ailleurs.
Vous serez également dans Les Grands Squelettes.
De Philippe Rameau.
De Philippe Rameau.
Un film qui est le portrait de plusieurs personnages à base de photos. Et c'est un projet assez expérimental, mais très beau, très poétique.
Et vous n'arrêtez pas, puisqu'il y a aussi Alexandre de François Ozon.
Absolument. Alexandre de François Ozon, qui sortira en février, dans lequel je joue.
Trois amis d'enfance.
Un père catholique, cinq enfants, fervent croyant, et qui retrouve des amis d'enfance avec lesquels il a partagé un même traumatisme.
D'accord. On parle musique tous les deux quand même. Alors Emmanuel, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous êtes avec Dany, justement, on parlait tout à l'heure
avec
de la
Dany,
belle voix de
Dany. Une tournée, c'est une lecture musicale. Je lis des passages de son livre et on chante ensemble.
La nuit ne dure pas.
Voilà, on sera à Paris le 16 octobre, aux étoiles.
Aux étoiles à Paris. Quand vous dites vous partez en tournée, c'est-à-dire que vous faites...
On fait pas mal de dates, ouais.
Vous choisissez les...
En fait, c'est un spectacle.
Si vous choisissez les lieux de tournage, vous devez choisir les lieux de concert, c'est pas possible.
Non, parce que ça dure pas longtemps, les concerts.
Bon. Donc.
Non, mais en fait, on a fait ce spectacle, on l'a fait pour le Printemps de Bourges, et il a tellement plu qu'on a eu plein de demandes.
De le tourner, voilà. Oui.
D'accord, très bien. Le 16 octobre, donc prochain, aux Étoiles à Paris. Et quant à vous, Melville, c'est avec Benjamin Biolay que vous tournez. Racontez-nous cette rencontre.
On est copains depuis quelques années, on a fait de la musique plusieurs fois, à chaque fois on s'entend bien. J'avais joué sur son album Palermo Hollywood. Et là, c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on parte en tournée? On fait un truc entre nous, on n'est que trois musiciens sur scène. Des reprises de...
Songbook,
voilà, ouais. Exactement. Des chansons à lui, mais aussi des chansons du répertoire français, même des vieilles chansons de Rina Kitty.
Des standards, c'est ça.
Du Nino Ferrer. Ouais. Pas forcément des tubes, mais des chansons qu'on aime bien et qu'on s'amuse à jouer. On joue un peu tous les instruments.
C'est quoi? C'est votre playlist? C'est votre bande originale? Vous la choisissez sur quelle humeur?
On passe beaucoup de temps ensemble avec Benjamin à écouter de la musique. On s'échange des fichiers. Est-ce que tu connais celle-là? On avait envie de jouer du tango. En fait, c'est tout en français, mais c'est pas que de la chanson française. Il y a aussi du jazz, du reggae.
Moi, je l'ai vu, c'est super. Vraiment.
Mais ça vous tente d'en faire une véritable carrière ou vous prenez ça comme
déjà,
une respiration?
Ça me prend tout novembre, décembre, janvier, février. On a 50 dates. Donc c'est déjà assez conséquent. Après, j'aime bien intervertir, en fait. J'aime bien faire un film, faire un peu de musique, même écrire des bouquins si je peux. J'aime bien, en fait, le métier d'acteur, ça vous permet aussi d'avoir pas mal de temps libre.
C'est une chance, c'est un luxe de pouvoir tout faire. Le 14 novembre, vous serez en région parisienne, à Neuilly. Le 15 novembre, à Sébaza. Le 22, à La Chapelle-sur-Erdre. Le 23, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 27, à Villefranche-sur-Saône. Le 28, à Caluire. Le 30, à Monaco, m'a dit tout dire. Le 6 décembre, à Boulogne. Le 8, à Fougères, commentaire. Le 12 décembre, à Lille. Le 20 décembre, à Bordeaux. Le 9 janvier, à Marseille. Toulon et Tans, ça sera le 18 janvier. Chessie le 24 et l'Olympia le 19 février. Gros morceau.
J'aurais jamais imaginé que je ferais l'Olympia jour de ma vie, mais grâce à Benjamin.
Ouais, gros morceau.
Votre corps a changé, que vous avez décidé de vous montrer autant sur scène?
Je ne mets pas de nu sur scène.
Ah bon?
Oh, bon.
Elle est déçue. Une cascade de questions pour nos invités. Des questions courtes avec des réponses courtes pour Emmanuel et pour Melville. C'est parti. Et c'est Daniel le premier.
Melville, votre geste de beauté
du matin.
Mais si, c'est important, les gens veulent savoir.
Geste de beauté.
Bah les pompes, les abdos.
Des tractions plutôt, alors.
Vous continuez?
Ouais.
Tous les matins?
Ouais, les tractions, ouais, juste ça.
D'accord. Leïla?
Emmanuel, le cadeau que vous offrez le plus souvent?
Je sais pas.
C'est un fringue, un livre,
plutôt
un
des fringues. Ouais. Plutôt des fringues.
Plutôt des fringues.
Il y a toutes les réponses, Nagini.
Albert... Non, mais je pose. C'est ça qui est bien. J'ai pensé au cadeau que je faisais aussi.
C'est vrai que c'est plutôt des fringues.
Bah, tu fais des cadeaux, toi. On apprend des choses.
Ouais,
alors, il faut qu'on parle
de gonflé, ouais, t'es gonflé.
T'es vraiment,
là, t'es vraiment gonflé. Là, je...
Merci, non, Leïla,
ne
témoigner.
Dis rien, je t'en supplie, Nagui, ne dis rien.
Ça va, les écouturanges, là.
Les quoi?
Albert.
Melville, votre juron préféré ou vos jurons préférés? Quand vous insultez quelqu'un ou quand vous exclamez.
Non, il lit la Bible, il est hyper calme.
Putain de ta mère.
Ah voilà.
Ah quand même.
Ouais. Et vous, Emmanuel? Ça vous arrive de jurer, j'imagine.
Il n'y a pas un gros mot qui revient
putain,
régulièrement.
Putain, ouais, plutôt ça. Putain.
Ouais.
Ah, c'est la base, quoi.
Ouais. Ouais.
C'est la base.
Sans aucun enchaînement, pardon. Hein. Marina.
Pardon,
une
oui,
question.
Pour vous deux, un classique que vous n'avez jamais fini.
Un livre.
Un classique.
Moi, il y en a plein que j'ai pas fini.
Il n'y en a pas que vous avez que vous n'aimiez pas quand vous étiez ado et que vous avez redécouvert adulte.
Ouais, peut-être, mais je lis pas énormément.
Bien.
Et vous, Melville?
Bah là, j'ai commencé La Curée de Zola, mais je vais pas le finir.
Ouais. Voilà, je
Leïla?
Oui, l'endroit où vous pourriez rester enfermé toute la nuit.
Ensemble?
Bah alors ouais, d'accord, ensemble. Pourquoi pas? J'avais pas imaginé ensemble. Un endroit.
Une chambre
qui...
d'hôtel à Lyon.
Ah ouais.
Un monsieur veut le confort. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'Emmanuel allait trouver un endroit plus
rock.
Une salle de spectacle, peut-être.
Ouais. Très bien.
Bah, vous avez le choix de la musique.
On pourra faire un petit concert.
Daniel?
Un rêve ou un cauchemar que vous faites de façon récurrente, Melville?
Un avion qui s'écrase sur mes pompes.
Ah, vous n'êtes pas dans l'avion?
Non.
Vous voyez l'accident, ouais. Mais vous n'êtes pas dedans. Vous n'avez pas peur à bord d'un avion?
Non.
D'accord. Insoupçonnable, on peut quand même prévenir, je ne sais pas si c'est interdit au moins de 12 ans ou autre.
Mais bon,
ce
n'est pas violent, c'est
non,
ça aussi
c'est
qu'on a
violent.
Aimé. Ouais. C'est qu'il y a du suspense, il y a de la tension, voilà. Mais il n'y a pas de scène.
Ouais. Oh, ça peut donner des idées aux gosses quand même.
Non, en tout cas, il y a des scènes dénudées, que ce soit homme ou femme.
Non, mais pas
ça va,
tellement.
C'est, soft.
C'est très soft. Hein.
D'accord, enfin, c'est le père de famille qui parle. Donc il y a ces scènes-là, et puis il y a quand même l'image d'un serial killer avec la mort en spectacle. Ça, c'est la toile de fond d'Insoupçonnable et de cette enquête. Oui, voilà. Et de cette enquête. Non, mais il faut quand même prévenir. Ouais. C'est pas. Et de cette enquête menée par Emmanuel Seignier, Melville Poupeau, je le rappelle, avec ce casting
Claire
impressionnant.
Claire Kane, Jean-Hugues Anglade, notamment.
Patrick Chesnais,
ouais.
Également. J'ai oublié Sophia et Saïd. Qui joue extrêmement bien aussi.
Ouais, très bien.
Blandine,
Emmanuel
Bonamy. Blandine La Fouine, Gérald Laroche et Emmanuel Bonamy.
Et Ryan.
Et voilà, il fallait rajouter des excuses à présenter, Daniel.
Mais bien sûr, désolé déjà pour la Bulgarie et la Hongrie. Je cite Emmanuel Seignier, des pays sous-développés, dangereux et oubliés par la culture, qui se sont sentis bizarrement visés. Ça va, en plus, je vous raconte pas ce qu'elle a dit en off sur l'Amérique du Sud et l'Asie.
Et Roumanie aussi, Roumanie.
Et Roumanie, bien sûr.
Elle insiste.
Désolé pour Mimi Mati, Leïla Kadour, Boudadi, Clara Morgan ou encore Christine Angot qui m'ont appelé pour proposer leur service de babysitter. À Melville Poupeau.
Excuse-moi, j'ai des doigts qui traînent.
Ah ben dis donc, c'est en bas que je parle.
Non, vas-y.
Et il l'a dit, c'est à Gianni, personne d'autre. Et désolé enfin pour les fans du dandy Melville Poupeau et de Madame Culture Boudadi, fans qui ont découvert en réalité deux animaux obsédés par les blagues de cul à base de cuny et de tirer un coup. Je me sens un peu sale à vos côtés.
Oh,
on se rattrapera avec François Bunel demain. Nous parlerons de littérature et de la grande librairie de ce 10e anniversaire. Bravo pour Insoupçonnable, en tout cas.
Merci.
Ce soir, deux épisodes sur TF1 à partir de 21h. Insoupçonnable, porté par Emmanuel Seignier et Melville Poupeau. Et bonne tournée et
merci,
bonne continuation. Merci mille fois. À demain, bonne journée.
Demain.
Ce sont les carnets de campagne maintenant. Attendez, bougez pas.
Ouais, attendez deux secondes.
Ça
ouais.
On
ça c'est incroyable.
Quoi.
Mais dans le spectacle, à peine terminé, il y a déjà les spectateurs
bah oui,
qui s'en vont.
Bah oui, c'est ça.
Ah là là. J'ai écouté les lectures de Melvin, c'est vachement intéressant. J'avais une question, si La Curée de Zola est rebaptisée Le Curé, est-ce que vous poursuivez la lecture?
Sans doute.
Très bien. Salut les amis,
salut,
à demain.
Ciao.
Salut.